Chaud devant, c'est marqué. Chaud devant, mais pas très tôt, hein. Amis de Twitch, bonjour. Tiens, on va lancer le live sur TikTok. Alors, un peu en retard ce matin. Alors, pas une grasse matin, je me suis levé tôt pour lire les journaux pour vous, mais j'avais un rendez-vous familial important et qui a traîné un peu. La circulation à Paris, c'est compliqué le matin. Et je lance sur TikTok en même temps. TikTok qui me dit, mesdames et messieurs de Twitch, vous allez être impressionnés. Championne de la régularité. Oui, petits yeux, j'ai dormi 4 heures. Ça va 4 heures en vrai. Hein. On est pas loin d'une grasse mat. TikTok me dit, mesdames et messieurs, championne de la régularité, tu surpasses 86% des créateurs créatrices jusqu'à présent. En termes de régularité. Incroyable. Je passe en live. C'est un encouragement, je passe en live. Matin est un terme presque exagéré. Eh, 11h le matin. 11h. Oh, en vrai. On lance sur TikTok. Damn, Samu, le GOAT, TikTok. Salut Alexandra. Je sais que t'es fort, Alexandra. Tu m'as régalé hier sur Kaamelott. Oui. Alors, démarrer le live. Hop. Je vais remercier les subs aussi que je viens de voir arriver sur Twitch. On va mettre le chat de TikTok à côté du chat de Twitch. Voilà, vous êtes voisins. Vous êtes frères. Vous êtes frères de numérique. Frères d'Internet. Frère de digital, pas du tout. Ami de TikTok, bonjour, on vient de lancer live de la matinée, Etienne, la petite revue de presse comme tous les matins, que je viens de lancer sur Twitch et également. Ils ont la priorité, hein, parce que je suis avec eux depuis 5 ans. Vous êtes les petits nouveaux, mais on vous aime quand même. C'est quoi cette revue de presse à 11h? C'est quoi cette revue de presse à 11h? C'est quoi cette revue de presse? C'est quoi cette bouteille de lait? Et là, c'est quoi cette revue de presse à 11h? 11h, c'est 9h normalement, 9h, 9h30, max. Sauf que rendez-vous familial ce matin, important, la famille, c'est prioritaire, vous savez, j'adore mon taf, hein. Parfois j'abuse, mais c'est prioritaire. Et puis le rendez-vous était ok, mais après il a fallu revenir au studio et la circulation à Paris, mesdames et messieurs. Merci Flo Hitpool, merci la Tulipe 69, merci les soutiens, mes abonnements, les subs, merci Kazet, merci Alice, merci Moumou Reine des Mouettes, merci Aline. 41. Merci Vincent 6ème, je t'ai vu Vincent. Merci. C'est incroyable. Et donc voilà, et la circulation, c'est une dinguerie. Voilà. Notamment le matin, là, on va dire 8h, 8h, 11h, c'est un enfer. C'est ça de vouloir se déplacer en Porsche dans Paris. Mais t'es fou, j'ai un Duster. Moi. J'ai un Dacia Duster que j'adore acheter d'occasion. Option vitreuse électrique, s'il vous plaît, parce que c'est, à l'époque, c'était l'option. C'était une option. Je suis très très heureux de ma voiture. Une voiture, c'est fait pour se déplacer. Je vais pas mettre de l'argent dans une Porsche. Il fallait, lui. Donc voilà, j'ai mis littéralement une heure, je pense, pour revenir au studio. Voilà. Faut se déplacer en trottinette. Non, je suis trop distrait. Et puis tout ce qui est deux roues, moi, j'ai été motard toute ma vie. J'ai un peu arrêté le mélange fatigue, manque de sommeil / distraction et pas topissimement. Voilà. Donc, sachez, je me suis levé tôt ce matin pour lire les journaux. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas 200 000 trucs ce matin. Il y a des articles. Comment dire ? Vous savez que je privilégie la qualité et la quantité. Et là, je ne vous ai pas trouvé 600 articles. Mais par contre, j'en ai trouvé 3-4 qui sont vraiment incroyablement bien faits. Mais vraiment, quoi. C'est quoi ça ? Voilà. Ici, ça ride sur une Triomphe. Ouais, Triomphe, c'est bien. C'est bien. Voilà. Salut Red Snow. Ouais, j'avais un rendez-vous à familial ce matin. T'as vu que Kering s'est fait hacker? Non, j'ai pas vu. Salut Arnaud. C'est pas le tout de faire travailler papa, faut assumer après. Hein? Quoi? Quoi? Hein? Quoi? T'es en Harley? Oh, non, j'ai eu beaucoup Honda, moi. J'ai eu Yamaha. J'ai eu Triomphe. Ducati, j'ai adoré. Ah si, j'ai eu une Harley. J'ai eu une Indian aussi. Ouais. Mais c'est fini tout ça. Maintenant, on n'est plus en deux roues. Non, Honda, j'ai eu notamment une Pan-Européenne. J'ai eu une 125 XLS il y a longtemps. J'ai eu d'autres Honda. J'aime bien la fiabilité Honda. Après, bon, ça, parfois ça manque un petit peu de caractère. Ouais. Salut Portoufle. T'es un mec du Bronx? Ouais, bien sûr, je suis un mec du Bronx, bien sûr. Ouais. Bien sûr que je suis un mec. Quelqu'un dans le chat qui demande, mais t'es un mec du Bronx, quoi. Bien sûr. Oural, ouais, mignon. Je sais pas si la fiabilité est au top. Notamment, Oural, ils ont des sidecars assez sympas. Mais... ça m'a toujours... Oural, ils ont sorti des sides de fou. Après, je sais pas... prends soin de toi, Sam, même au volant, le manque de sommeil est dangereux. Je sais, je fais attention. Mais là, il y a 4 heures, là. Bah, faut dire que le lundi soir, on réacte du question pour un champion. Deux émissions, ça nous emmène tard. Hein. Bioul, j'en ai rêvé de Bioul. Ah, Bioul, ça, c'était des bécanes, ça. Fini, ça, d'ailleurs. Ouais. Yamaha, c'était la marque de ta moto ou ton gang? Ça, c'est une bonne question. Le titan, je ne reprendrai pas cette question. Bonjour, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Reconversion professionnelle, demande Kian Grosjandi, magnifique pseudo. Qu'est-ce que je fais sur TikTok? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok, toi? Triumph Speed Triple, joli. Salut Samuel, je suis tombé sur un best-of d'une émission dans laquelle tu donnais 3 raisons de revoir ton ex. Eh bien, c'était fort drôle. Non, c'était débile. C'était, il fallait répondre en 10 secondes et j'ai raconté n'importe quoi. Donc non, c'était pas drôle, c'était très gênant. Une amie, 29 ans, on a une de Bioul, c'est pas si fini que ça. Ouais, mais ils produisent plus les Bioul. Bioul, c'était une base de Harley. Il y a un mec qui s'appelait Eric Bioul, je crois, et qui a construit des roadsters là-dessus. Et c'était assez fascinant. Mais la production s'est arrêtée il y a longtemps. Je crois. Après, ils ont été rachetés par Harley. Mais c'était un truc, quoi. BFG, la moto française qui ressemblait à un rectangle, je me rappelle, ouais. Mais il n'y avait rien de méchant, je voulais juste savoir. Mais je me fâche pas, Kian. C'est juste que je sais pas quoi te répondre. Si, je sais quoi, te répondre. Je pense qu'en fait, à chaque plateforme correspond un public. Et que je pense que cette revue de presse, que je fais depuis 5 ans sur Twitch, bah, c'est intéressant de la proposer sur d'autres plateformes pour toucher d'autres publics. Voilà. Et notamment TikTok. Voilà. Sachant par exemple que ça fait des années qu'on me réclame que cette revue de presse aille en podcast. Il y a énormément de Français et de Françaises qui écoutent des podcasts. Et moi, je n'étais pas trop podcast. Et ben ça y est, ça arrive. On est en train de travailler dessus. La revue de presse en podcast, bien sûr. Merci Major Phoenix. Merci René. Merci Mathias. Merci Mister Tips. Merci du soutien. Merci Oliarg. Merci Kane. Merci La Tulipe. Tête de chaise, si tu continues à spammer dans le chat, c'est quoi le bad buzz avec Peter Moelcu ou Peter Moelcu? C'est très drôle, hein, mais. Normalement, il y a école, là. Quel jour on est? Mardi? Mardi, il y a école. Même en maternelle. Hein. Donc, tu me refais encore ça, tes bandef du chat. Putain. Les gogoulous du matin, là. Tu l'as écrit 5 fois, déjà. 6 fois. Encore une fois, tu dégages. Tu ne pollues pas mon chat. Si c'est pour les... Ok. Allez, c'est bandef. Pour la durée du live. Tu reviendras demain, hein? Avec tes blagues, tes super blagues. Ah non, je t'ai carrément bloqué d'ailleurs. Ah non, c'est méchant ça. Je vais te mettre en sourdine pendant une journée. Plutôt. Ça reviendra demain. Le compte en sourdine. Live entier. Allez, à demain. Non, je vais. Ah, on est sympa ici. Bon, il nous embêtera plus. Salut, Kylia. Il y en a qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Ouais, mais c'est pas assez. Mais ça, c'est des enfants, ils ont raté l'école. T'es énervé aujourd'hui? Ah non. En fait, Kylian, je vais t'expliquer. En fait, je suis pas énervé. Un jour, tu me verras énervé, tu dis ah ouais, ah oui, c'était pas pareil. Là, je suis pas énervé. C'est juste qu'en fait, il faut pas comprendre. Souvent, les gens confondent gentillesse et faiblesse. Ah, il est gentil. Ça, c'est limite un gros mot. Mais en fait, la gentillesse, c'est pas la faiblesse. Moi, je suis gentil avec les gentils, moi. Moi, j'aime bien mettre de la douceur dans cet univers, dans le monde, dans mes relations avec les gens. Pourquoi tu le bloques? Il ne faut pas censurer. Un mec qui spamme 7 fois, tu connais, pétez-moi le cul. Tu ne bloques pas? T'es complètement con, en fait. Singrid, ça a été bercé trop près du mur, tout ça, mais il se passe quoi, les gars? Je vous explique. Il ne faut pas confondre gentillesse et faiblesse. Moi, je suis un gars gentil. Voilà. Mais la faiblesse, c'est se laisser faire. Et la faiblesse, c'est laisser une personne pourrir un chat où il y a des milliers de personnes. C'est ça la faiblesse. C'est même stupide. Donc ces gens-là, on les écarte doucement, gentiment. 24 heures, c'est pas méchant. C'est pour le bien commun. Il faut des règles, en fait, dans un espace commun. Je vais vous expliquer, moi. Hein, voilà, comme le dit Moulbit, faut pas confondre. Moulbit, c'est un modérateur. Faut pas confondre bonne ambiance entre viewers et ambiance PMU. Voilà. Hein. Si vous êtes bourré, les gars, faut pas venir ici. Voilà, comme ça, on est entre gens apaisés, quoi. On n'est pas au bistrot, quoi. Salut, Shakili, et bisous à ton copain. Et merci à lui. Ça sonne comme du fascisme, dit Sid Pagru. Voilà. Alors après, quand on utilise des mots, il faut en comprendre le sens, quoi. Je te laisserai retourner à tes cours d'histoire. Fascisme, c'est un mot très important, en vrai. Oh la régalade. Moi, je pourrais lire le chat toute la journée, hein. C'est mon plaisir. KTM, ça roule ces motos là ou c'est toujours en panne? Je sais jamais. Bon, ça va être en panne 24 heures. Bon, les amis, est-ce que vous allez bien? Parlez-moi un petit peu de vous. Est-ce que la vie va bien? Est-ce que le travail va bien? Est-ce que la santé va bien? Est-ce que la famille va bien? Est-ce que les amis vont bien? Est-ce que le moral va bien? Salut, c'est nous. Ça va, Cal? Bonjour à Nouvelle-Calédonie. C'est quoi le sujet de conversation aujourd'hui? Je t'envoie ça dans un instant. Tous au vert sauf les amours? Oh, c'est déjà pas mal. Ducati, c'est devenu plus fiable quand même. Hein. Gros débat santé de la France hier en famille avec les voisins? Trop bien. Que signifie aller bien de nos jours? Oh, tu sais. Moi, ma théorie, c'est que ça n'a jamais allé bien globalement, collectivement. Après c'est à vous peut-être de trouver votre équilibre personnel dans ce maelstrom qui est l'univers, quoi, et qui a toujours été, hein. C'est juste que maintenant on se rend un peu plus compte parce qu'on est un peu plus informé qu'on l'a été. Incroyable. Bonjour Samuel, je suis la personne qui paraît de créer une chaîne Twitch sur la paléontologie et visiblement les Samuel s'entraident. Quelqu'un me propose peut-être un contrat de par mon message dans ton chat hier. Merci d'un Sam à l'autre, merci, c'est incroyable. Incroyable ça. Salut Drakeos. J'ai reçu une mise en demeure hier. Ça, AdBlue, c'est pas cool. Force. À Marseille, il fait beau. Hâte qu'il pleuve. Comment ça? Attends, avec la belle lumière marseillaise. Force Priscilou. Bonne révision. Skype pour le code. Salut Roi Burgonde. Oh. Dark Stellar, j'ai perdu mon chat hier. Force, je sais à quel point on peut s'attacher à un animal de compagnie. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai pas. Je trouve que c'est trop dur quand ils s'en vont. Force Dark Stellar. Major Phoenix. Il y a des beaux messages. Regardez. Internet, ça peut être le pire et ça peut être le meilleur. Ça peut être aussi des messages qui sont inspirants. Il y a Major Phoenix, par exemple, sur TikTok, là, qui vient d'écrire « Je prends soin de ma maman ». Et ça, c'est le bonheur aussi. Là, c'est quand même plus sympa que monsieur qui nous parlait de Peter Moelcu tout à l'heure. Oui, d'accord. Vous voyez la différence? Force Tom Thompson. Mauvaise nuit, Walimio. Nouveau tatouage? Ah bah attends, on va laisser celui-ci se reposer déjà. En bilan de compétences pour changer de voix, ça c'est beau, Titi. Tu vois, c'est des messages que je trouve beaux. Ça c'est un métier qui est super difficile. Voilà. Il y a Sef Diab qui nous dit « Je suis aide à domicile et fier de ce que je fais ». Bah tu peux carrément. Tu gardes quoi comme souvenir de ta vie étudiante? Pas beaucoup parce que j'étais souvent en soirée. IBAC user 93 41 56. Et puis le bourreau qui écrit: bonjour la vie, bonjour Samuel, bonjour la bonne humeur, rien ne va, tout fout le camp, mais Samuel est là. Duopal, je suis concierge et c'est super, GG. Pas trop le moral avec les cours et mon rendu de mémoire, type louf. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le stress, le mémoire, c'est ça? Allez, rhume, force à tous ceux qui sont enrhumés. Esprit org. Je commence un nouveau travail lundi après 4 ans de chômage. Bravo, Julie. Putain, c'est cool. Putain, j'espère que ça va bien se passer. Tout va bien, même. Waouh, il y a super Coco qui dit tout va bien. Ok. Même si ma copine et moi sommes bientôt virés de notre boîte. Sinon, ça va pas mal. Super Coco, force à tous les deux. J'espère que vous allez enchaîner. Attends, Samuel, tu viens de dire que Ducati serait pas fiable? Je ne dis rien, moi j'en ai eu. Hein. Disons que c'était pas ma moto la plus fiable. Hein. J'aime le message de Dota Maton. Après 30 ans de chômage, je commence un nouveau travail. J'ai 30 ans. T'aimerais refaire le The Event l'année prochaine, mais qui n'aimerait pas faire le The Event? Vous êtes toujours un terrible gauchiste? Ouais, Ving, toujours. Ouais. Je suis aussi d'extrême droite. Si tu cherches bien sur Internet, tu verras. Je suis macroniste aussi. Je suis aussi un dangereux soutien du Rassemblement National qui banalise cette parole. Et je suis aussi un dangereux gauchiste. Je suis tout ça. Si tu cherches bien sur Internet, tu vas tout trouver. Tu tapes Samuel Etienne gauchiste sur X, tu vas l'avoir. Tu tapes Samuel Etienne Marine Le Pen, tu l'auras aussi. Tu tapes Samuel Etienne macroniste, tu l'auras aussi. Après, vous faites le tri, hein, vous vous débrouillez, c'est pas mon problème. Bon, en tout cas, merci pour tous ces messages. C'est beau. En fait, c'est pour ça qu'on est sur. C'est pour ça qu'on est là. Alors, on se parle, on se raconte des histoires d'actu, mais ces histoires d'actu, c'est aussi l'occasion d'échanger, quoi. Et de se dire que même si on est chacun dans notre petit coin, on n'est pas forcément tout seul, quoi. Voilà. Moi, je trouve que les plateformes servent aussi à ça, quoi. Je teste avec Zemmouriste pour voir. Non, alors, on m'a jamais qualifié de Zemmouriste encore. Par tous les. Faut quand même pas tout. Hein? Bon, les amis, alors, je vous rappelle le concept de la matinée Étienne qui existe depuis 5 ans sur Twitch et qui arrive en podcast bientôt. Bonjour de Tahiti qui régale. Salut Nico. Ça fait 5 ans ici qu'on lit les journaux le matin. La presse quotidienne nationale. Je vais vous les montrer, les journaux. Donc c'est ça. Je vous les montre sur TikTok aussi. J'ai tout cassé. Attendez, bougez pas, les amis de TikTok. Voilà. Tac. Voilà. Donc, je lis Le Monde tous les matins, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos et L'Équipe. Ok? Je fais mon petit choix dans les actus, ce qui me semble important, et dans les articles qui en parlent. Je pourrais lire la presse quotidienne régionale, qui est excellente en France. Mais on ne peut pas tout lire, manque de temps. Je pourrais lire la presse magazine. On a une des presses magazines les plus riches du monde en France. Mais manque de temps, on ne peut pas tout lire. On pourrait lire la presse qui n'est que sur Internet. Il y a d'excellentes choses sur Internet uniquement et qui ne sortent pas forcément en format papier dans les kiosques, comme Mediapart, dont je suis abonné et que je vois régulièrement. Mais je ne veux pas tout faire. Donc j'ai fait un choix qui est subjectif. C'est de lire cette presse quotidienne nationale qui sont ces journaux qui parlent un peu de tout, qui s'intéresse un peu à tout, à l'actualité en France, internationale, économique, sociale, tech, éco, culture, etc. Jeux vidéo même parfois. Et parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans cette presse, c'est qu'elle est généraliste et qu'elle parle un petit peu de tout et qu'elle permet de multiplier les regards sur un même sujet. Voilà. C'est très subjectif. Si cette presse-là vous intéresse pas, moi c'est celle que j'aime bien lire, bah libre à vous d'en lire une autre, évidemment, quoi. Mais c'est ce que je propose, c'est un choix éditorial. Est-ce que tu lis Têtu? Me demande Fainéant. Est-ce que je lis Têtu? Est-ce que je lis Têtu? Je crois que je n'ai jamais dit ça. Mark my words. Deux points. Ouvrez les guillemets. Samuel Etienne, 16 septembre 2025, 11h28. Est-ce que je lis Têtu? J'ai été bombe du mois dans Têtu. J'ai été bombe du mois dans Têtu. Dans mes jeunes années de journaliste et présentateur à iTélé, il y avait une rubrique, je sais pas si elle existe toujours. Non, j'ai pas fait la couve. C'était bombe du mois. Je pensais un truc, ça les faisait marrer et ils choisissaient un mec random et ils disaient ouais, c'est la bombe du mois. Je l'avais déjà raconté. Voilà. Et j'avais été bombe du mois. Un mec à la rédac qui avait décidé que ouais, c'était trop. J'étais trop fier. J'étais trop fier. J'étais là. J'étais le GB du mois. Donc, ouais. Je connais bien Têtu, ouais. On veut les preuves. Alors, je pense pas qu'on va trouver ça sur internet, mais. Samuel. Tient. C'est vieux, hein. J'ai le magazine à la maison, hein, je l'ai gardé, mais. Il faudra le trouver dans un carton, quoi. Têtu. Bombe du mois. Je pense pas qu'on va le trouver en vrai. Merci Camille pour le raid. Cet incroyable raid. J'arrive. Alors, je trouve des occurrences sur internet. Ici, par exemple, j'ai un article sur Première, le site Première. Samuel Etienne s'est même retrouvé bombe du mois dans le magazine Homosexuel Têtu. Voilà. Donc, j'ai pas l'article. Voilà. 1994. Ça, non, ça, c'est pas en 94. 94, c'est que je commence à travailler. Je pense que c'est mon CV. Voilà. Mais il y a des occurrences. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Je ne vous dis pas que des bêtises. Ça doit se retrouver en fouillant. Ouais. Alors, j'ai pas posé, hein. J'ai pas fait des photos. Camille, merci pour ce raid en vrai. C'est incroyable. J'aurais adoré, hein. Camille. Merci pour le raid. Vous étiez sur quoi avec Camille ? Camille, c'est... Ah oui ! Attends, alors, les modos, est-ce que vous voulez bien épingler la chaîne de Camille CM qui vient de nous raid ? Camille, c'est cette streameuse incroyable qui est en pleine nature. Hein ? Qui stream littéralement au milieu de la nature. Voilà. Et c'est topissime. Voilà. Et prend des photos, je crois. Non, regardez les brins d'herbe pousser. Bah voilà. Merci, Sugar. Hop. Voilà, c'est épinglé. C'est la chaîne que vous avez en haut du chat, là, sur Twitch. Merci, Goku-san. Merci, Camille, pour le raid, c'est adorable. Merci, Popo Vigno. Merci, Orliag. Merci, Kane. Merci encore, la Tulipe. Merci, Kaladz. Merci, Kiss. Merci, TurboJet. Bon, les amis, donc, le principe, il est là. On commence très en retard ce matin par un sommaire, c'est-à-dire que je vous donne en 5 minutes l'essentiel de l'actu. Ça va aller vite ce matin. Et après, on lit les articles. Je vous donne les infos, on en parle, on débat, on est d'accord, pas d'accord, mais on essaye de rester chill et respectueux les uns les autres. Alors, de quoi je vais vous parler ce matin ? Touk ! Voilà. Pas beaucoup d'articles, mais des articles de qualité, enfin, je trouve. Il y a des trucs vraiment intéressants. Alors, la une du Parisien, d'abord. La une du Parisien. Hop. Voilà. Sur les avantages des anciens premiers ministres rabotés. C'est une décision manifestement du nouveau premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a annoncé qu'il va limiter les moyens matériels, et notamment le chauffeur, le secrétaire, et la protection policière des 17 anciens premiers ministres. Voilà. 17 anciens locataires de Matignon qui ont toujours des avantages. Alors quelqu'un dit dans le chat, est un petit peu en colère, démagogie de droite. C'est pas complètement faux. En fait, on est vraiment dans le domaine du symbole, c'est-à-dire que l'économie faite, parce que souvent dans le chat sur l'actualité, quand on évoque les problèmes de la France, la dette, tout ça, toujours des gens qui pop et qui disent ouais, c'est simple, il suffit de baisser le train de vie des députés, puis on va baisser leur salaire, et puis des ministres aussi, et puis voilà, puis c'est réglé. Bon, alors après, je peux pas répondre à chaque fois, parce que je le vois à peu près tous les jours, ce message. Je peux pas expliquer à chaque fois qu'en fait, si on fait tout ça, c'est bien, mais on va économiser que dalle, parce qu'en fait, ça concerne très peu de personnes, et tu multiplies l'économie par le nombre de personnes concernées, et c'est une, voilà, comme le dit Troïka, c'est une goutte d'eau dans la mer. Bon, alors, du coup, je réponds pas à chaque fois, mais je le lis tous les jours. En revanche, même si c'est symbolique, c'est intéressant quand même. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que quand on demande des efforts aux Français, et à tous les Français, et notamment pour réduire la dette, eh bien, il faut montrer l'exemple. C'est là où je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça va rien apporter, ce truc. Enfin, c'est que là, c'est que chi. Mais, on est dans les principes, et parfois, le symbole, et parfois le principe, en politique, c'est intéressant. Non, tu ne peux pas demander aux salariés de faire un effort, aux retraités de faire un effort, aux gens qui ont les minima sociaux de faire un effort. De serrer la vis surtout, hein, sur les conditions de l'assurance chômage, etc. Et puis que certains n'aient pas à faire un effort. Les plus riches, les ultra-riches, les grandes entreprises. les élus, les anciens premiers ministres. Voilà. Donc, c'est pas complètement inintéressant. Donc, est-ce que c'est de la démagogie? Est-ce que c'est une façon de montrer l'exemple? On va en parler ce matin. C'est le sujet, en tout cas, vous l'avez bien compris. Ici, on parle du Proche-Orient et on parle des Palestiniens et d'Israël et de Gaza quasiment tous les jours. Là, dans le Parisien, toujours, j'ai un article qui raconte le mois à Gaza d'un chirurgien français. Je vais vite, hein, parce que c'est le sommaire. Déjà présent au début du conflit, François Jourdel constate 2 ans plus tard l'extrême détresse alimentaire de l'enclave palestinienne. Il témoigne. C'est pas un politique, c'est pas un journaliste, c'est un médecin français qui bénévolement passe du temps sur place et il raconte. Voilà. Et ça, on le lira ensemble tout à l'heure si vous le voulez bien. Merci Gokusan. Alors ça, quand j'ai lu ça dès hier soir, parce qu'hier soir je me suis couché tard et les journaux étaient déjà disponibles, et quand j'ai vu ce dossier dans Libé, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enquête. Alors ça, c'est un énorme papier. Mais alors, c'est un travail journalistique d'une grande qualité. Et vraiment, je vais vous le lire. Attends, j'ai un petit message du boulot, là. Ok, super. C'est pour MVP. Regardez cette histoire. C'est une histoire incroyable. Hyper force. Hyper forte. Enquête. Torturé par la Chine, abandonné par la France. Un commerçant français a passé plus de 2 ans en détention près de Canton. 2 ans de détention en Chine avant d'être acquitté. Il raconte à Libération les supplices dont il a été victime et l'inaction du Quai d'Orsay. Alors je suis allé lire ce papier et je me suis dit, attendez, c'est quoi cette histoire? Je comprends assez vite qu'il a été condamné, emprisonné pour trafic de drogue. Je me dis, oui, mais alors... Aujourd'hui, il a quitté, mais qu'est-ce qui nous dit que en fait, il n'était pas trafiquant? Et en fait, quand tu lis l'article, tu comprends que le gars, en fait, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il a été libéré. Sauf qu'il a passé 2 ans dans les prisons chinoises. 2 ans d'une violence inouïe. Hein, c'est un témoignage sur le système carcéral chinois qui s'assoit sur les droits des prisonniers, y compris en préventive et sur les droits humains minimaux. Donc, ça témoigne de ça. C'est pas des mauvaises conditions de détention, on parle de torture. Et l'inaction de la France et de la diplomatie française pour faire libérer ce monsieur. C'est une énorme enquête, c'est un travail d'une qualité incroyable. Je vous lirai ce dossier. Voilà. Ça, il y a plusieurs papiers ce matin, mais c'est La Croix qui en parle le plus. Les riverains surexposés aux pesticides. Ça fait des années déjà que plein de gens tirent la sonnette d'alarme sur l'exposition aux pesticides des gens, des Français, des Françaises, des adultes, des enfants qui vivent près des vignes. Puisqu'on sait que la viticulture, c'est le secteur agricole qui consomme a priori le plus de pesticides. Et là, il y a une étude scientifique là, de l'ANSES et de Santé publique France qui confirme, qui révèle la forte présence de pesticides à proximité des vignes. On ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Voilà. Alors, comme sont les scientifiques rigoureux, ils disent alors les conséquences sur la santé humaine, il faudrait des études pour aller plus loin, pour être sûr. Même s'il y a de forts soupçons, mais en tout cas, on avance sur le sujet, donc on le lira ensemble. Voilà. On lira ce papier. Et puis, on terminera. Vous voyez, je ne vous ai pas mis 1000 actus ce matin, mais j'ai préféré vous choisir de beaux papiers et prendre le temps sur ce que vient de faire M. Duplantis, hein, l'athlète. Quelle nationalité déjà? Il n'est pas suédois? C'est ça, suédois. Qui vient de passer une barre incroyable, de battre un nouveau record du monde de saut à la perche. 6m30. Donc là, si vous vous intéressez un petit peu au sport et à l'athlétisme, vous savez que c'est surréaliste. Armand Duplantis qui a battu hier pour la 14e fois le record du monde et décroché son 3e titre mondial à la perche, 6m30. Voilà. Jusqu'où ira-t-il? Quelqu'un me dit, Moulbit me dit, il a 6m50 dans les cannes, le monsieur. Monstro Duplantis. Voilà. Et puis ce qui est intéressant dans l'équipe, c'est que il y a un article qui explique pourquoi ça a progressé, comment ça a progressé, comment on est passé de 4m02 en 1912 à 6m30 le 15 septembre 2025. Les perches nous dit pop. Qui m'a dit ça? Me dit Sugar. Alors, bien sûr, le matériel, sauf que, a priori, les athlètes utilisent peu ou prou les mêmes perches. Donc, il n'y a pas qu'une histoire de perches. Il y a aussi une histoire d'hommes et de femmes, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, on verra ça. Salut Samuel, je suis sûr que tu pètes aisément son record et son perche. En fait, ta phrase, elle est juste si tu la coupes à peu près au milieu. Tu vois. Salut Samuel, je suis sûr que tu pètes aisément son record et son perche. Non. Salut Samuel, je suis sûr que tu pètes. Oui. Et une partie de ta phrase est juste. Mais pas tout. Ici, on laisse carré sur l'actu, c'est-à-dire qu'on met un peu de rigueur. Quoi. Donc tout n'est pas faux dans cette phrase. Même aisément, on peut garder le aisément. Ouais, c'est vrai. Donc je valide une partie de cette affirmation. En ce moment même, peut-être pas. Merde, peut-être pas, on sait pas ça. Merci Juju du Vaucluse, heureusement que t'es là parce que hein, c'est fou là. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ça, t'es drôle Samuel. On essaye face à l'absurdité et la violence du monde de mettre un peu de sourire. Je vous lis un petit peu, c'est mon plaisir. Merci Yusuke. Il y a Ayam de Bounty qui demande quelle est ta prochaine course. Franprix, je crois. Je cours moins qu'avant. Donc là, prochaine course Franprix ou Carrefour, je sais plus. Vas-y, je t'écoute ça pendant la vaisselle des biberons, trop mignon. Trop chaud. On y go ? Petite revue de presse ? Les beaux gosses ? Ok, est-ce qu'on fera du gaming ce soir ? À quel jour on est ? On est où là ? Je vais essayer. Demain soir, il y a un stream de gaming assez sympa. Où je vais découvrir un nouveau jeu, World of Warships. Ce soir, je sais pas encore. J'ai une conférence sur Twitch ce soir. Je participe à une conférence sur Twitch. Et après, peut-être que je vous lancerai du Valo. Mais ça va dépendre parce que je dors pas beaucoup en ce moment. Allez, let's go. Alors, c'est donc le Parisien qui nous en parle beaucoup ce matin. Train de vie, les avantages des ex-premiers ministres rabotés. Sébastien Lecornu annonce qu'il va. Donc, c'est le nouveau Premier ministre. Limiter les moyens matériels et la protection policière des 17 anciens locataires de Matignon. La fin des avantages à vie. D'abord l'actu, les faits, et puis on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette décision. Ancien Premier ministre Sébastien Lecornu s'apprête donc à signer un décret, ça a l'air sérieux, effectif à partir du 1er janvier pour limiter les privilèges mis à disposition des anciens locataires de Matignon. Chose promise, chose due, point d'interrogation, Sébastien Lecornu n'aura pas tardé, en tout cas, à joindre le geste à la parole. 48 heures après avoir annoncé sa volonté de mettre fin aux privilèges des anciens premiers ministres, le nouveau chef du gouvernement passe à l'acte. Selon un document que nous nous sommes procurés, dit le Parisien, Matignon a envoyé lundi soir deux instructions signées de la main du premier ministre pour mettre fin à un certain nombre d'avantages à vie. Voilà. Tel qu'il s'y est engagé le week-end dernier dans une interview fleuve accordé à la presse quotidienne régionale. Ça, je l'avais raté, ça. Merci, Niveau 9. On ne peut pas demander aux Français des efforts si ceux qui sont à la tête de l'État n'en font pas. Ceux qui crient au populisme dans le chat, vous avez partiellement raison. Et en même temps, je trouve que c'est un petit peu juste pour analyser cette actualité. Et on peut parler de populisme, mais Moi, cet argument de « on ne peut pas demander aux Français des efforts si ceux qui sont à la tête de l'État n'en font pas », vous n'étiez pas là pendant le sommaire pour dire ça maintenant. Mais ce que je suis en train de me dire, c'est que c'est peanuts, c'est que dalle en termes d'économie. Ça ne change rien quant à la dette, c'est que dalle, on va voir les chiffres. Mais je trouve que sur le plan des symboles, c'est pas complètement inintéressant que les politiques fassent aussi un effort. Voilà. La première instruction vise à revoir le décret du 20 septembre 2019 rédigé par Édouard Philippe à l'époque, lequel permettait aux ex de Matignon de bénéficier d'un véhicule de fonction et d'un chauffeur sans durée maximale. Donc on apprend quand même que les anciens premiers ministres avaient un véhicule de fonction et un chauffeur sans durée maximale. D'où ? Pourquoi ? Comment ? C'est quoi ce job où t'as une voiture à vie et un chauffeur ? Pardon, mais... Non ! Non ! Et un secrétaire particulier, un secrétariat particulier pour 10 ans. Pour 10 ans. Avec les nouvelles dispositions, l'usage du chauffeur sera limité à 10 ans et ne sera plus à vie. La France compte 17 anciens premiers ministres. Donc, ça nous fait 17 chauffeurs. Voire un peu plus, je ne sais pas si ça se trouve, s'il doit être disponible 24 heures sur 24, ça veut dire que potentiellement c'est plusieurs chauffeurs, je ne sais pas. 17 anciens premiers ministres encore en vie pour un coût annuel de 1,5 million d'euros à la charge de l'État, hors protection policière qui rajoute au total 3 millions. Alors, c'est pas rien. Alors, vous allez me dire, par rapport aux 44 milliards d'euros d'économies souhaités par Bayrou dans le gouvernement précédent, 1,5 million d'euros, 3 millions, bon, c'est que dalle. Mais c'est quand même des chiffres énormes. Concrètement, tous les anciens occupants de Matignon, en fonction avant 2015, sont concernés. D'Edith Cresson, qui est la plus ancienne. Excusez-moi, j'arrive. Voilà. À Jean-Marc Ayrault, on passera par Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, qui manifestement peut dire qu'il a été entendu, puisque il y a quelques jours sur M6, il avait déclaré que supprimer ou limiter certains de ses avantages serait œuvre de justice. Pas forcément de réduction du déficit, mais de justice. Un décret mentionnant ces nouvelles dispositions, effectif à partir du 1er janvier, sera publié dans les tout prochains jours. Déjà, on est en train de voir qu'il n'y a pas grand-chose. Manifestement, le secrétariat pour 10 ans est laissé. Et en fait, la mesure, c'est de passer de chauffeur à vie à chauffeur pendant 10 ans. Vous voyez, c'est pas énorme. T'inquiète, Sugar, je m'en occupe. J'ai l'œil. Deuxième mesure, plus sensible, celle de la protection policière, qui jusqu'à présent ne faisait l'objet d'aucun cadre réglementaire. Dans les faits, le directeur de la police nationale va devoir encadrer et limiter les moyens alloués aux anciens premiers ministres pour leur sécurité, à savoir un dispositif de protection rapproché pour les 3 ans suivant la fin du bail à Matignon. Ça, c'est la nouvelle règle. Voilà. Alors qu'avant, il n'y avait pas trop de limites. Après, plus rien, mais une éventuelle reconduction s'il y a une menace caractérisée sur la personne, bien sûr. Un délai réduit à 2 ans pour les anciens ministres de l'Intérieur. Quant aux anciens ministres, aucune automaticité du cas par cas selon le niveau de menace. La question des avantages à vie de certains anciens membres du gouvernement est un vieux serpent de mer auquel Michel Barnier avait déjà tenté de s'attaquer lors de son court séjour à Matignon, estimant que le train de vie de l'État devait être plus sobre, plus simple. Bon, et d'accord. Fin août, François Bayrou avait remis sur le sujet sur l'établi en conférant à l'ancien député socialiste René Dosière. Je crois que c'est un gars qui travaille beaucoup sur les finances publiques, ça non, et sur les abus justement, non, René Dosière. Une mission pour identifier les moyens mis à disposition des responsables publics. Bon, le Cornu a décidé d'agir. Sébastien Lecornu va plus loin, engage là de sa toute première mesure depuis qu'il a été nommé à Matignon, et on est bien d'accord, c'est complètement symbolique. Mais est-ce que c'est pas intéressant quand même ? Elle n'arrive pas par hasard, pile au moment où le voilà face à un mur budgétaire, celui de la dette publique abyssale de 3500 milliards d'euros, qu'il doit tenter de contenir et même de résorber dès le budget 2026. Et donc l'obligation de demander des efforts à tous, y compris ses prédécesseurs, en leur imposant de réduire les frais auxquels ils ont droit. Je vois beaucoup de choses intéressantes dans le chat, je vais vous lire. Là, je lis l'article et après, je vous lis. Reste que la mesure est symbolique. Le Parisien le dit aussi. Probablement quelques centaines de milliers d'euros économisés par an tout au plus. On a un budget On a une dette de 3500 milliards d'euros, et ça, ça va nous faire économiser quelques centaines de milliards, de milliers d'euros par an. C'est symbolique, mais est-ce que c'est inintéressant pour autant ? Une goutte d'eau dans un océan de dettes. D'aucuns y voient un geste d'un brin populiste, c'est un mot qui est très apprécié par le chat ce matin, pour flatter l'opinion au moment où l'image des politiques n'a jamais été aussi médiocre dans le cœur des Français. Bon, je me demande si certains qui utilisent le mot populiste ce matin ne sont pas les mêmes qui régulièrement me disent « Ouais, mais pourquoi on baisse pas les salaires des députés ?» Bon, peut-être pas, hein. Mais bon. Qui plus est à quelques jours d'un grand mouvement de grogne sociale et syndicale le 18 septembre. Merci Pondanierio. Merci Elia, merci Dixon, merci NK. C'est bien de revoir le train de vie des anciens membres du gouvernement, mais pour les gens, on reste des nantis, observe un ministre démissionnaire. Beaucoup pensent qu'on a une retraite à vie, ce qui est faux. Une retraite, c'est à vie, non ? Une fois qu'on a droit à la retraite, c'est jusqu'à la mort, non ? C'est bizarre, cette phrase. Je pense que c'est mal exprimé. Bon, peu importe. Fondamentalement, ce décret ne va rien changer à l'état de nos finances ni à l'image des politiques qui restent des privilégiés aux yeux des Français. Ce ministre, lui, pense que ça ne va rien changer. Voilà. Bon, là, il y a un éclairage sur ce qui se passe à l'étranger et là, un éclairage sur le service de protection également dans le viseur. Maintenant que j'ai lu ce dossier, je vous lis vous. Qu'est-ce qui se passe le 18 septembre ? Une journée de mobilisation syndicale Minério. Il y a eu la journée bloquons tout du 10 septembre qui n'a pas été à la hauteur des espoirs de mobilisation des organisateurs, qui a fait pchit, voilà. Mais pas flop, parce qu'il y a quand même il y a eu des choses intéressantes, mais pchit. Et puis il y a le 18 septembre, c'est les syndicats. 150 000, 200 000 personnes, ça n'est pas rien quand même. Alors c'est pas le grand blocage qu'espéraient certains, mais ça n'est pas rien. C'est, là aussi, c'est signe de quelque chose. C'est pour ça que moi, je ne parle pas de flop. Alors vous parlez de quoi, vous ? C'est à la fois symbolique, me dit Kev la carotte, pour donner l'impression qu'il est à l'écoute, mais aussi un moyen de draguer le PS pour éviter une éventuelle censure. Oh, je pense que ça suffira pas, le PS, il a des exigences beaucoup plus importantes que ça, notamment sur la fiscalité. Mais j'entends, on n'est plus sur de la manœuvre politique que sur une véritable mesure. Bon, quand les gars font rien, on les critique, quand ils font des trucs, on les critique. Bon, c'est le jeu, hein, je valide. Merci Brest Trisotose. Salut Alexandra. N'est-ce pas un move du Premier ministre pour montrer l'exemple et demander de faire de même plus tard? Bien sûr, Imec, bien sûr, évidemment, évidemment. Ce qui est dommage des Scream Killers, c'est que beaucoup de gens râlent sans arrêt sur le fait que les anciens ministres touchent trop. Et quand quelqu'un le fait, les gens disent c'est de la manœuvre. Hein? Mito Toro est un peu dans ce camp-là. Est-ce inintéressant ? Question étrange, penses-tu ? C'est toujours intéressant dans le symbole, toujours bon à prendre. En revanche, pourquoi maintenant ? Toute cette lumière qui n'est pas sur le sujet de fond, pourquoi maintenant ? Bah parce que le cornu vient d'arriver au pouvoir, il n'y était pas avant. Il n'était pas Premier ministre. Même s'il y a les arrière-pensées politiques, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Ils pouvaient tous le faire avant, les premiers ministres. Ils l'ont pas fait. Joli. Alors, il y a beaucoup d'entre vous, et j'entends, hein, qui disent il faut juste baisser les revenus en fait des élus. Quelqu'un m'a dit, c'est prof interne qui dit, aucun élu ne devrait être au-dessus du salaire médian, avantage compris. Il y a Flower qui dit, il faudrait juste baisser la retraite de tous les élus, ça motiverait certains pour qu'ils viennent uniquement pour la politique, la beauté de l'engagement, et non pour l'argent. Comment ça la pub pour Bardella en bas de la page ? Il y a une pub dans la... Là, dans l'article que je vous montre, il y en a une pub pour Bardella ? Il y a des gens sur TikTok qui parlent d'une pub pour Bardella. Ah, vous confondez avec Barilla ? T'es complètement con. Vous savez pas lire en fait. Mais ils sont quoi ? Ils sont débiles. Mais c'est pas possible, c'est imbitable les gars. On va jamais y arriver, hein. Pff, vous m'épuisez, hein. Littéralement des mecs dans le chat qui ont écrit c'est quoi cette pub pour l'extrême droite en bas de la page quoi. Oh, putain, vous êtes épuisant. Donc je reviens à l'idée de baisser le salaire des élus politiques et leur retraite. Ça semble une bonne idée. Comme ça va attirer que les gens qui sont vraiment intéressés par la beauté de l'engagement politique, ils viennent pas pour l'argent, etc. Sauf que finalement. Ça va attirer qui en politique, ça ? Bah, les gens qui n'ont pas vraiment besoin d'argent, en fait. Le risque, c'est que ça attire les gens qui n'ont pas vraiment besoin d'argent. Les gens qui ont déjà de l'argent, voilà, et qui peuvent se permettre d'arriver sur un taf qui va leur demander énormément de travail, énormément d'investissement, de se prendre toute la violence de l'opinion publique et des réseaux sociaux, dont on peut voir un tout petit échantillon parfois dans nos chats, voilà, pour un salaire qui est celui que vous souhaitez, c'est-à-dire le plus bas possible. Ça va attirer qui ? Les gens qui n'ont pas besoin de cet argent ? Hein, des gens qui sont déjà riches. Donc c'est quoi ? Donc il faudrait réserver finalement tous les postes d'élus et de politiques aux gens qui ont déjà du bien. Donc c'est un risque en fait ça. Donc, c'est un sujet. Déjà, pardon, hein, on n'a pas un personnel... Je vais être un peu populiste, moi aussi. On n'a pas un personnel politique foufou. Hein. Voilà. L'une des raisons pour lesquelles il y a un divorce croissant entre les Français, les Françaises et leurs élus et leurs représentants politiques, c'est qu'on n'a pas une classe politique... ça fait pas rêver tous les jours, quoi. Moi, je veux bien qu'on baisse leurs salaires et leurs intérêts et leurs avantages, tout ça. Moi, je trouve ça très bien. Hein. Mais... Je suis pas sûr que ça arrange le schmilblick, quoi. Voilà. En revanche, oui, les avantages dont on vient de parler, pour les anciens premiers ministres, oui, en vrai. Si, sur un plan symbolique, oui. Julien. Torpello dit ça a déjà été fait, système, ça s'appelait l'aristocratie. C'est pas complètement faux. Bon, est-ce qu'on peut... Bon, moi je suis à la fois d'extrême gauche, d'extrême droite et macroniste. Est-ce qu'on peut estimer que même si c'est un peu démago, même si c'est dans le domaine des symboles, même si c'est une goutte d'eau dans un océan de dettes, est-ce qu'on peut se dire que limiter les avantages à vie des anciens premiers ministres, même si c'est que dalle, est-ce que ça va plutôt dans le bon sens ? Moi, je dirais que oui, c'est pas grand-chose. Pas sûr que ça mérite trois pages, mais c'est quelque chose. Nous, on s'en branle, on veut... Qu'est-ce qu'il dit ? Poupouton. Nous, on veut taxer Bernard Arnault, mais ça l'empêche pas, hein, tu peux faire les deux, hein. Ça va être la suite, on va voir ce qui va se passer après. C'est ce que souhaitent les socialistes. Les socialistes, en ce moment, ils mettent un peu la pression sur le cornu en disant « Chouchou, si tu veux pas dégager, si tu veux notre soutien, il va falloir que tu teintes ta politique fiscale de nos idées, notamment taxer les ultra-riches. » Je suis pas sûr qu'ils y arrivent, mais on va voir. C'est ce qui va se passer dans les prochains jours. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, parce que du coup, c'est pas les mêmes montants. C'est sûr que si on s'arrête là, ça va être trop juste, hein. « Et ça, on en parle tous les jours. Hier, vous l'avez en replay, on a passé un gros moment sur la dette, sur la charge de la dette et sur la politique fiscale et sur ce que souhaitent les différents partis. On a beaucoup parlé ces derniers jours et je sais qu'on va en reparler dans les prochains jours. Voilà. Bah, tu l'as en replay, Audinox. Tu as tout sur Twitch gratuitement et sur YouTube, t'inquiète. Ouais. À partir de quel moment on considère quelqu'un d'ultra riche? Bah, la taxe Zucman, par exemple, elle estime que en proposant de taxer à 2% par an le patrimoine des ultra riches, la taxe. Donc Monsieur Zucman, hein, l'économiste, estime que cette taxe concerne les gens qui ont plus de 100 millions, c'est ça, hein, 100 millions d'euros de patrimoine. Donc si toi dans le chat qui nous interpelle, tu as moins de 100 millions d'euros de patrimoine, tu n'es pas considéré, en tout cas par Monsieur Zucman, comme un ultra riche. On parle de 1800 personnes, 1800 foyers fiscaux, je crois. Voilà, c'est du 0,0001% de la population. Quoi. Il y a les riches, il y a les très riches et il y a les ultra riches. Levez la main ceux qui sont ultra riches. 100 millions. J'aimerais bien être taxé, dit Mamou. Bah moi aussi. Hein. Moi aussi. Hein. Si tu me dis, demain tu peux avoir 100 millions d'euros et être taxé par la taxe Zucman, je pense qu'on va tous dire, let's go quoi. On va. Bon, puis après, puis l'année d'après, on va râler quoi. Il faudra mettre les 2%, mais on les prend quand même, non? On les prend ou pas? Demain, on nous dit, allez, on vous donne 100 millions d'euros de patrimoine et on vous en prend 2% tous les ans. Vous prenez ou pas? Ou pas trop? Je sais pas, juste. Vous prenez? On les prend et on se barre à Dubaï? Non, parce que la taxe Zucman, si elle est votée, mais elle sera jamais votée, elle prévoit une lutte contre l'exil fiscal qui ferait que pendant quelques années, si jamais tu te barres, tu pourras pas te barrer. Enfin, si tu pourras te barrer, mais tu passeras la caisse. Mais elle ne va pas être votée, la taxe Zucman. Jamais le président Macron laissera la taxe Zucman s'installer. Jamais. C'est totalement négatif de sa politique économique depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Taxe Zucman qui a été votée à l'Assemblée d'ailleurs il y a quelques temps et qui n'a pas été votée au Sénat, mais qui a quand même été votée par l'Assemblée nationale. Hein. Tout le monde l'oublie. Voilà. Là, ce qui risque de se passer... Alors, faisons un peu de politique fiction, même si je n'aime pas ça. Ce qui risque de se passer, c'est que le gouvernement Le Cornu, qui est encore à créer, il n'existe pas, on n'a qu'un Premier ministre, il nous manque les ministres. Le gouvernement Le Cornu, s'il ne veut pas sauter dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il a besoin d'un soutien, en tout cas d'une partie de l'Assemblée qui ne vote pas la censure contre lui. Et comme la piste droite-centre-droit n'a pas trop marché ces derniers mois, il va essayer de bénéficier de la clémence, notamment des socialistes et des écologistes. Les socialistes disent... parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, ils étaient un petit peu en situation de puissance. Mon chouchou, si tu veux ça, il va falloir faire des efforts. Notamment sur la politique fiscale. Il va falloir que tu nous mettes la taxe Zucman. Voilà. Sauf que, moi je vous dis, il n'y a aucun monde où le président Macron peut accepter ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont discuter, ils vont essayer de nous pondre une mini-taxe Zucman. Ce ne sera pas du 2%. Ce sera du 0,5% ou du 1%. Ils vont exempter plein de trucs. Ils vont exempter notamment les startups, les licornes et puis d'autres encore. Voilà. Et l'un dans l'autre, bon, il y aura un truc qui va rentrer, mais ce ne sera pas à la hauteur des 20 milliards d'euros par an calculés, espérés par Zucman. Ce sera beaucoup moins. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va passer ? Ça va pas passer ? Voilà. C'est ça qui arrive. C'est ce que j'ai vu dans ma petite boule de cristal. Après, je peux me tromper. Pauline me dit, ils ont évoqué 0,01% comme compromis sur quotidien. Oh la vache. Merci d'ours, tu régales. Je fais vraiment ce que je peux d'ours. Hein. Parfois, je dis bien des conneries aussi. Hein. « Pourquoi ce genre de loi n'est pas voté en référendum? Antonio, t'as raison. Moi, je pense que des questions aussi importantes que ça, que la fiscalité, que la charge fiscale en France, que la question des retraites, que la question environnementale, que la question de la sécurité, toutes ces questions, en fait, elles sont trop importantes pour être laissées uniquement à un président qu'on a élu parfois il y a 5 ans, à un député qu'on a élu parfois il y a 5 ans, et que sur ces questions-là, de temps en temps, il faut en appeler directement aux Français. Voilà. Par le référendum. Je pense que ce serait une jolie façon de revivifier notre système politique qui est à bout de souffle. Dans le chat Twitch, à TikTok, vous ne l'avez pas, point d'exclamation 2027, et vous avez mon programme pour 2027, qui justement proposera de gouverner en grande partie par référendum. Non, pas OnlyFans, King Julian. Pas point d'exclamation OF, point d'exclamation 2027. Avec un deuxième tour, Teddy Riner versus Samuel Etienne, et je le lave. Je l'attrape par le col, bim! Il y a Encino qui dit « La démocratie représentative, ça fait un moment qu'elle est en crise, notamment parce qu'on n'a pas l'impression d'être représenté correctement, donc tout à fait d'accord. » Peut-être que le référendum peut nous aider à remettre un petit peu de foi dans le système, quoi. Teddy, invité ce soir de Quotidien, de Yann Barthès. Alors Teddy Riner est invité de Quotidien ce soir. Teddy Riner est invité de Quotidien pour parler de sa candidature à la présidentielle. Et moi, non. Et moi, non. Et moi, on m'invite pas, moi. Ah ! Eh ben, dis donc. Pourtant, Yann, on s'entend bien. Il m'invite souvent. Ouais, je vais lui envoyer un texto. Pas déconner, quand même. Est-ce que je vous emmène un petit peu sur le Proche-Orient ? Ok ? Fallait faire 1 million. Bah oui, vous n'avez pas donné 1 million. Au prochain The Event, je mets ma candidature à la présidentielle à 1 euro. 1 euro, c'est pas je lui macam, c'est je me présente à la présidentielle. Non. Ce matin, j'étais avec mon épouse là pour le rendez-vous. Elle m'a dit, parce que Hélène sait que je suis fou, mais elle se méfie de ma folie aussi. Et elle me dit, la prochaine fois, si tu refais le The Event, il faudrait que tu mettes ton donation goal de la présidentielle beaucoup plus haut là que le million, parce que peut-être que tu vas finir par le faire et du coup, mauvaise idée quand même. Et je lui ai dit, mais alors moi j'ai plutôt pensé à le mettre à 1 euro. À 1 euro. Et là, elle m'a regardé, et comme une lueur d'inquiétude dans son regard. En mode, mais il est complètement barjo, il est foilé. Parce qu'elle sait, elle, les conséquences que ça aura sur notre vie. Sur ma vie, sur sa vie, sur la vie des enfants. L'enfer que ce sera. Voilà. Et là, elle sait que je suis assez suffisamment con, en fait, pour faire ça, moi. Voilà. Donc, elle aimerait qu'on mette 2 millions. Mmh. 2 millions. Moi, j'hésite. Moi, je mettrais bien 1 euro. Voilà. Mais... Donc là, elle est en train de chercher des arguments pour me décourager de le faire. Et elle en trouve des bons en plus. Petite parenthèse, vous êtes resté en bon terme avec Monsieur Dupontel. Alors j'adore Monsieur Dupontel, qui est un grand comédien et un immense réalisateur, mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc comment rester en bon terme avec quelqu'un que tu ne connais pas? Éric Pimel, 486, j'attends ta réponse parce qu'elle m'intrigue. Je n'ai même jamais eu la chance d'interviewer ce goat qui est Dupontel. Mais du coup, la suite de la question m'intéresse. Salut Elisabeth Montélimar, jolie ville. Fouiller les Sam, ne serait-ce que pour la démarche participative qui posera un bon débat. Ouais, mais ça risque de salut le coin de Bréa, ça risque de poser des problèmes, quoi. Tu vois, par exemple, un truc tout bête. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai la chance de faire de temps en temps des OP, des opérations commerciales sur Twitch, notamment pour jouer à des jeux vidéo. Avec des studios qui me disent, tiens, on te file un jeu, on te file des sous pour jouer à ce jeu. La vida loca, quoi. Mais est-ce que demain, on va continuer à me proposer des jeux si je fais de la politique? Ah ben non, on va pas associer notre image de jeu de studio à l'autre foufou, là. Le cinglé, là. Le loco. Le fou du bus. Tu vois? Elle a dit ça. Elle sait comment me prendre. Oh, y a un petit bébé à côté. Vous entendez le petit bébé ou pas? Merci Astras80. Merci Denis. Merci. C'est le petit. J'ai les voisins, ils ont eu un petit bébé. J'adore. Il a une jolie voix. Il a une jolie voix. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, je l'ai jamais croisé encore. Tu l'as réveillé? Non, il s'en va là. J'ai entendu la porte claquer, ce sont ses parents qui sont sortis. Donc vous voyez, je pourrais plus jouer, quoi. Merci le coin de Bria pour le prime. Et je pourrais plus faire le The Event non plus, ouais. Eh oui. Je supporte pas les bébés, surtout quand une chiale perso me dit ZNK. Ah ben non, heureusement que tes parents et que toutes les personnes qui t'ont croisé quand toi tu étais bébé étaient plus tolérants, quoi. J'adore cette phrase. Moi, je ne supporte pas les bébés, surtout ceux qui pleurent. Mais toi, tu crois que t'as fait quoi quand t'étais bébé? Ah non, mais moi, je suis né, je parlais 6 langues, je faisais chier personne, j'étais dans ma chambre, je faisais mes maths. Hein? Et Zendenka, qui a beaucoup d'humour, dit. Attends. Attends, il nous a répondu, c'est trop chaud. Ah, je t'ai perdu. Oh, je l'ai perdu. Ah, ça, je confirme, vous voyez? Mais oui, on l'a tous été, ça, les gars. Les pleurs, les pleurs. Ah, Eric, je savais que tu confondais avec Laurent Bignolas. C'est pour ça que j'attendais ta réponse. Ouais, c'était une grosse bourdasse, ça. Ouais, je me rappelle. Et Laurent, c'est un chouette gars pourtant, mais là il s'était bien planté. Ouais. Je savais que tu confondais, mais j'attendais que tu fasses tes recherches. Par rapport à M. Dupontel, parce qu'en fait la personne a confondu avec un autre journaliste. Il y en a qui confondent les femmes et certains qui confondent les journalistes aussi. Et donc les gens qui ne supportent pas les bébés, les pleurs des bébés, mais c'est incroyable ça. Mais comment on a fait quand vous étiez bébé, quoi? C'est incroyable ça. C'est devenu. On a beaucoup parlé de ça déjà sur cette chaîne ici, là. Une tendance qui se développe en France des espaces sans enfants. Hein, les restaurants. Ils sont très minoritaires, il y en a très peu, mais ça commence, comme dans certains pays. Les restaurants sans enfants. No kids. Adults only. Les hôtels sans enfants. Oh oui, il y a du bruit et tout, quoi. C'est les vacances sans enfants. Ouais. Mais tous ces adultes-là qui veulent pas d'enfants autour d'eux, ils. Quand ils étaient enfants, comment on faisait? Alors, enfin, tu vois, c'est toute société qui exclut comme ça, c'est un peu. Je sais que ça crée des débats toujours. Oui, mais oui, dans le train, oui, puis au restaurant, je veux bien être tranquille et tout. Et puis, mais c'est quand même une forme d'exclusion quand même, d'exclusion de l'avenir aussi. Voilà. Et puis un enfant qui pleure, c'est surtout un enfant dont on s'occupe pas. Un enfant qui pleure, si les parents s'en occupent, un enfant qui pleure, c'est un enfant qui a mal, c'est un enfant qui est malade, c'est un enfant qui a faim, c'est un enfant qui est fatigué. Bon, bah, si les parents s'en occupent, les pleurs, ils vont cesser. Voilà. Ou alors, puisqu'on prend l'exemple du restaurant, bah, il y a un des deux parents qui va prendre l'enfant et qui va l'emmener un petit peu plus loin, le bercer, le promener. Un enfant qui pleure et qui casse les bonbons de tout le monde, le problème, c'est pas l'enfant. C'est les parents. Ah mais après, il faut que les parents s'en occupent. C'est un boulot aussi, c'est une responsabilité, c'est un métier. Hein. Mais attention à ce truc qui se développe là d'exclure. Faut pas exclure les enfants, quoi. Allez, j'arrête de donner des leçons à tout le monde là. C'est fou ça. Chance présentateur. Ici, c'est une chaîne où on parle du Proche-Orient. Des Palestiniens, de Gaza, d'Israël, quasiment tous les jours. Voilà, avec différents articles selon les développements d'actualité. Et là, dans le Parisien, il y a un article sur un chirurgien français qui revient de Gaza. Déjà présent au début du conflit, François Jourdel constate 2 ans plus tard l'extrême détresse alimentaire et l'anéantissement de l'enclave palestinienne, il témoigne. C'est pas un témoignage de journaliste. Bon, en même temps, Israël interdit à tout journaliste étranger de se rendre dans la bande de Gaza, donc c'est compliqué. C'est pas un témoignage de journaliste, c'est pas un témoignage de palestinien, c'est un témoignage de streamer. De streamer. Quelqu'un parlait de streamer dans le chat. De médecin, de chirurgien français. Merci à Taz. J'adore ce message de Darsaliot. Sans blague, ma fille de 2 ans n'aime pas les autres enfants qui font du bruit dans le train obligés d'aller au wagon-bar. C'est trop mignon. Peu de gens rentrent dans Gaza. Non, je vous le disais, Israël a interdit tout journaliste extérieur à Gaza, étranger, de rentrer dans Gaza. Étrange. Peu de gens rentrent dans Gaza. Ceux qui y parviennent doivent monter à bord d'un convoi blindé des Nations Unies, traverser un no man's land, un champ de bataille où tout est rasé, pour enfin rejoindre la zone humanitaire. C'est ce que raconte François Jourdel, qui est chirurgien orthopédique, qui vient d'y passer un mois, en mission avec l'ONG Médecins Sans Frontières. Depuis plus de 20 ans, ce Français résident, une petite faute d'orthographe là, résident ANT, ou alors réside, pas ENT quoi, mais c'est une petite coquille. Ce Français résident à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, part sur ses congés dans des pays en guerre ou en situation de catastrophe naturelle. Donc déjà, GG à ce monsieur, quoi. Pour soigner des blessés. Il s'était déjà rendu à Gaza en novembre 2023. Au début du conflit, 2 ans plus tard, il a retrouvé des amis et un territoire anéanti. Ah, il est résident. Ah, c'est moi qui ai mal lu. Il est résident. Et oui, il est résident, autant pour moi. C'est moi qui ai mal lu. Merci beaucoup. Donc, bravo à ce monsieur, quoi. En quoi consistait votre mission? François Jourdel explique. Je fais de la chirurgie plastique. Donc, parce que la chirurgie plastique, souvent, on pense chirurgie esthétique. C'est pas... Je fais beaucoup de pansements, de greffes de peau et de lambeaux. C'est ce qui permet de couvrir un membre, articulation, os exposé, qui ne cicatrise pas tout seul en allant chercher ailleurs un morceau de tissu. J'opère des bras, des jambes mutilées, des fractures ouvertes abominables. J'étais positionné dans un hôpital de campagne réservé aux opérations complexes à Deir el-Balah et de temps en temps à l'hôpital Nasser de Ran Younes qui accueille les premières urgences. Voilà. Esthétique, quand t'es défiguré, c'est nécessaire. Exactement. Voilà. La chirurgie esthétique, c'est pas forcément pour un monsieur qui veut se faire lifter ou une dame qui veut changer une partie de son corps, quoi. C'est aussi réparer des gens qui ont eu de graves accidents. Comment avez-vous vécu la double frappe sur l'hôpital Nasser le 25 août? Je devais y être ce jour-là, mais la veille, 2 ou 3 interventions techniques se sont programmées dans l'hôpital de campagne, donc j'avais décalé ma visite au lendemain. Sur la vidéosurveillance de l'hôpital, j'ai vu le genre d'image qu'on ne montre pas en Occident. Des morceaux de corps dispersés autour de l'hôpital. Des gens qui rapportent un bras, une jambe, pour enterrer les victimes en entier. J'ai vu un tronc de bébé, le corps et la tête. Au début, j'avais l'impression que c'était une statue en pierre. C'est ça la réalité d'une double frappe sur une foule compacte. Comment perd-on sous les bombes? Demande le Parisien. Quand l'armée israélienne envoie les flyers d'évacuation, petit papier, par avion, c'est qu'elle va vraiment se déchaîner, dit-il. On a peu de temps pour réagir, il faut partir dans la demi-heure, la zone de Deir el-Balah est un peu plus préservée, mais ça bombarde sans prévenir. L'hôpital de campagne tourne 24 heures sur 24, avec 4 autres chirurgiens palestiniens, on opérait 15 patients par jour, en travaillant avec le minimum. Je commençais vers 7h ou 7h30 le matin, je grignotais quelque chose le matin, puis j'opérais jusqu'à 19h. Au bout de 12 heures sans manger, on est cuit, j'avais ramené une 20aine de plats lyophilisés, mais très vite j'ai eu honte de les manger, donc je les ai donnés, dit ce chirurgien. Vous y étiez déjà en novembre 2023, Qu'est-ce qui a changé depuis ? Demande le journal au médecin. Au début de la guerre, quelques bâtiments étaient détruits, ça me paraissait déjà énorme. Là, des zones entières sont réduites à néant, notamment le long de la frontière. On ne distingue plus rien. Tout est aplani, il n'y a plus de végétation. J'ai des photos avant-après de mon personnel, ils ont tous perdu au moins 20 kilos. Beaucoup de patients sont rachitiques. Or, la cicatrisation des plaies est corrélée à l'état nutritionnel. La quantité de blessés, le fait de voir autant de blessures abominables sur des enfants m'impressionne aussi. Les plaies par balle, par explosif, les brûlures graves. D'habitude, on les voit sur des soldats, pas sur des enfants. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette mission? Demande le journal au médecin. L'amputation est très mal acceptée par les Palestiniens qui n'ont pas accès aux prothèses de jambes. Cela rend la décision très difficile. J'ai dû la prendre auprès d'un jeune de 18 ans. À l'aide d'un traducteur, j'ai vu ses yeux s'humidifier. Il m'a pris la main et s'est mis à me supplier de ne pas l'amputer. Mais j'ai eu le pendant aussi de ces moments de détresse. Dès mon arrivée, une infirmière a marché 10 km sous le cagnard d'août pour m'offrir une boîte de biscuits qu'elle avait achetée à prix d'euro marché. J'ai aussi retrouvé une petite fille, Nisma. Je partageais le thé avec sa famille en novembre 2023. Je leur avais offert des cadeaux. Elles ne me lâchaient plus. Cette fois, elles se sont régalées de plats lyophilisés. Avec mes patients, on n'avait pas de longues discussions, mais des signes de la main, des I love you. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont envie de sourire, de fonder une famille. Quel souvenir gardez-vous de ce mois? Demande le journal. Je suis apolitique, pas un activiste. Je décris ce que j'ai vu en toute impartialité, comme le ferait un journaliste. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je constate juste la misère de ces gens, l'extrême détresse alimentaire, l'avenir incertain de ces patients qui auront besoin d'énormément de soins à la suite de ces fractures complexes. Et puis le courage du personnel soignant, qui dort dans des tentes, ne mange pas grand-chose et ne compte pas ses heures, cela force l'admiration. J'étais heureux de renforcer une amitié déjà forte avec plein de Palestiniens, je les quitte encore plus inquiets pour eux. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que je vais y retourner. Donc déjà, un immense bravo à ce monsieur qui s'appelle François Jourdel, qui est donc un chirurgien français. Dans cette revue de presse, au quotidien, on parle de la situation militaire sur place, de la situation diplomatique, de la reconnaissance à venir, on l'espère, de l'État palestinien par plusieurs pays comme la France et d'autres choses encore. Excusez-moi, je lis quelques messages de taf. Mais là, je trouvais intéressant de lire ce témoignage. De ce qui se passe sur place. Non. Ce que vous savez, hein, si vous êtes informé, vous savez. Mais voilà, c'est un autre regard. C'est pas un regard de journaliste, c'est un regard de médecin français. Reconnaître l'État palestinien, c'est faire le jeu du Hamas, me dit Al-117. Ouais, c'est ce que dit Netanyahou, ouais. C'est ce que dit Marine Le Pen aussi en France. Ouais, ce sont les éléments de langage de ces personnes. Ouais. Ce n'est pas l'avis de la quasi-totalité des États du monde entier qui ont déjà reconnu l'État palestinien, les pays du G7 étant l'exception. La France est un des rares pays au monde avec d'autres grandes puissances qui n'ont pas reconnu l'État palestinien, mais la quasi-totalité des États dans le monde entier ont déjà reconnu en fait l'État palestinien. La reconnaissance de l'État palestinien, qui est la condition sine qua non pour qu'un jour puissent coexister deux États dans la région, qui, de l'avis général de tous les gens qui ont réfléchi un minimum au sujet, est la condition sine qua non pour le retour un jour de la paix dans la région. Alors qu'aujourd'hui, l'objectif du gouvernement israélien Netanyahou et ses alliés d'extrême droite, c'est d'expulser tous les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, grâce à la colonisation illégale des territoires. Et pour que, une fois qu'il n'y ait plus de Palestiniens en Palestine, bon, la reconnaissance de l'État palestinien ne se pose plus, puisque pourquoi reconnaître un pays où il n'y a plus d'habitants dedans, une fois qu'ils auraient été expulsés, exilés? Et c'est ça l'objectif du gouvernement actuel. Alors certains disent dans le chat, ça c'est reconnaître le Hamas. Je pense pas. Oui, expulsé, exilé ou tué, oui. Eh bien, tu dis des bêtises. L'objectif principal du gouvernement, c'est de récupérer les otages. Ça, c'est. Ça, alors ça, j'allais dire, c'est ce que dit le gouvernement Netanyahou, c'est faux. Même le gouvernement Netanyahou ne le dit pas. Et il suffit d'aller voir les déclarations des familles israéliennes des otages, qui depuis des mois te disent tous les jours que justement, ça n'est pas l'objectif de ce gouvernement. Comme incroyable d'affirmer ça dans le chat, alors que les familles des otages, elles, ne cessent de dire que justement, ce gouvernement s'en contrefiche. Voilà. Et que même le gouvernement Netanyahou n'en parle pas, puisque c'est pas du tout son objectif. C'est intéressant d'ailleurs. En fait, tu es littéralement le seul à le dire, quoi. Même les familles des otages ne le disent pas. En tout cas, on continuera à suivre cette actualité tous les jours. Voilà. Comme on s'y intéresse déjà depuis 30 ans, à titre personnel, mais c'est intéressant d'en parler avec vous. Si on, surtout quand on n'est pas d'accord d'ailleurs. Pierre dit une vérité que tout le monde devrait intégrer. Pierre vient d'écrire, le meilleur allié du Hamas, c'est Netanyahou. Et vice-versa. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses déjà. Merci, Sugar. Allez, on en reparlera sans doute dès demain, et sinon après-demain. Au début, cet article dans Libération, j'étais pas sûr de vous le lire parce que je trouvais que c'était une histoire personnelle d'une personne. Bon, le gars était emprisonné en Chine, il a été accusé de trafic de drogue. Je dis bon, d'accord. Et puis, plus je lisais cet article, et plus je me suis dit, mais c'est en fait, c'est une dinguerie. Incroyable enquête dans Libération ce matin. Enquête. Torturé par la Chine, abandonné par la France, un commerçant français a passé plus de 2 ans en détention, près de Canton avant d'être acquitté. Il raconte à Libération les supplices dont il a été victime. On parle de torture, vous allez halluciner. Et l'inaction du Quai d'Orsay. Cet article est incroyable. Prison chinoise, je veux que les gens sachent que ce que j'ai vécu. Condamné pour un supposé trafic de drogue, voilà, avant d'être acquitté. Vous allez voir qu'en fait, d'après l'enquête de Libération, il n'y a pas eu trafic de drogue. Un Français a passé plus de 2 ans de détention près de Canton. Il livre un récit édifiant sur le système carcéral chinois. Donc là, on apprend plein de choses. Et dénonce les graves défaillances des autorités diplomatiques françaises. Et là, on apprend encore autre chose. Et je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant. Franchement, j'espère que vous n'aurez pas maille à partir avec la justice à l'étranger. Parce que si la diplomatie française se bouge autant pour vous que pour ce monsieur, eh ben vous n'êtes pas prêt de sortir. Merci Carius pour le prime. Merci Daoud, merci Ataz, merci le coin de Bria. Son corps tout entier porte encore les stigmates de nombreuses blessures non soignées. Une fracture du nez qui fait que du sang coule quand il se mouche le matin. Une autre de la main droite qui provoque des craquements à chaque mouvement du poignet. D'autres encore au niveau de la mâchoire, responsable de la perte de 5 dents. Rémi, 48 ans, qui préfère conserver l'anonymat par crainte des représailles, souffre aussi d'une épaule longtemps déboîtée, d'une double hernie inguinale, de violentes douleurs articulaires et lombaires, de troubles digestifs et ophtalmologiques. Et surtout d'un très lourd stress post-traumatique lié aux actes de torture et de barbarie qu'il a subis en Chine, où il a été détenu 2 ans et 4 mois dans des conditions terrifiantes. Pourquoi ? Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour trafic de drogue à l'issue d'un simulacre de procès, il a finalement été acquitté par la justice chinoise et sommé de quitter le pays dépouillé de tous ses biens. La première fois que Rémi débarque à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris en 2022, le médecin des urgences constate ses multiples traumatismes corporels et psychologiques. Depuis, le Français a subi de nombreuses opérations chirurgicales, enchaîne les hospitalisations. En mars 2025, une expertise judiciaire confirme que la plupart de ses symptômes sont directement imputables à ses conditions de détention. Dans son rapport d'une quarantaine de pages que Libération a pu consulter, hein, qui est donc Libération a pu constater la quarantaine de pages de l'expertise judiciaire française, parce qu'il y a Yann Lab qui dit « mais est-ce qu'on peut faire confiance à cet article ?» En fait, Libération cite un rapport de la justice française sur le sujet. L'expert met en avant son discours fluide et cohérent, écartant toute interprétation délirante ou tendance volontaire à l'exagération. Ce récit inédit dans l'enfer des geôles chinoises offre une plongée glaçante au cœur du système carcéral de la deuxième puissance économique mondiale. Un témoignage d'autant plus accablant qu'il met aussi gravement en cause les autorités diplomatiques françaises, pourtant tenues à la protection de leurs ressortissants. Hein ? Théoriquement. Or, si Rémy a bien reçu plusieurs visites consulaires au cours de sa détention, il n'a jamais bénéficié du moindre soutien juridique ou matériel. « J'ai été torturé par la Chine et abandonné par la France », résume-t-il. « Aujourd'hui, je veux que les gens sachent tout ce que j'ai vécu. » Alors, l'histoire de ce monsieur, la voici, né à Paris où il a grandi. Il quitte la France à la fin des années 90 pour la Thaïlande d'abord, où il commence par ouvrir un bar avant de se lancer dans le trading de textiles. Puis pour la Chine, où il s'installe à Guangzhou, Canton, en 2006. Le français ouvre rapidement une boutique de vêtements et une seconde et exporte ses marchandises dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Une activité rentable qui lui permet de louer un vaste appartement au 45e étage d'une tour résidentielle avec vue panoramique, de jouir d'une vie sociale confortable dans la mégalopole où réside une importante communauté française. Pendant 13 ans, c'était la belle vie, raconte le français. J'avais un boulot génial, un bon salaire, des amis, avant que tout ne bascule brutalement le 24 juillet 2019. Salut Torpedo. Ce matin-là, en arrivant au siège de la société depuis laquelle il a l'habitude d'expédier ses colis, une quinzaine de policiers en civil lui tombent dessus et le braquent avec un taser. Menotté, Rémy est embarqué au commissariat du district. On lui impose de signer des documents en chinois sans aucune traduction. Waouh ! À l'époque, je ne savais pas lire la langue, je ne comprenais rien, se souvient-il. Je ne savais même pas ce qu'on me reprochait, mais je voulais sortir le plus vite possible. Après plusieurs jours de garde à vue kafkaïenne sans aucune explication, le français est conduit au centre pénitentiaire de Wexiu, pardon, à Canton. Dès son arrivée, on lui rase les cheveux, on lui déchire ses vêtements pour l'affubler d'un gilet orange. Il ignore encore que c'est la couleur réservée aux condamnés à mort. Les jours passent, puis les semaines, toujours convaincu d'être victime d'une méprise, Rémy est partagé entre la sidération, la peur et l'espoir de voir son calvaire s'interrompre aussi subitement qu'il a commencé. Mais après un mois dans une cellule d'accueil, sans avoir vu un seul avocat, il est transféré dans la cellule 213, c'est là que mon cauchemar a vraiment commencé, dit-il. Infesté par les rats et les cafards, éclairé 24 heures sur 24 par des néons aveuglants, la cellule 213 évoque les geôles secrètes des pires régimes dictatoriaux. À l'intérieur, 25 détenus s'entassent dans une pièce d'à peine 40 mètres carrés, où règne le froid et l'humidité. Seule une minuscule lucarne en hauteur permet de deviner la lumière du jour, mais pas de voir à l'extérieur. Aucune promenade à l'air libre autorisée. Les prisonniers ont seulement accès 3 heures par jour à une salle aveugle et grillagée attenante à la cellule équipée de 2 petits lavabos où ils peuvent se laver et faire quelques pas. Chaque détenu porte un gilet dont la couleur correspond à son statut. Bleu pour les prisonniers ordinaires, jaune pour les plus agressifs, vert pour les malades, rouge pour les responsables de cellules, orange pour les condamnés à mort. Audi nous dit, mais attends, comment ça, il avait aucune idée de sa sentence et son avocat ? Attends, ça arrive. Lors d'une discussion avec un responsable de la prison, Rémy finit par apprendre qu'il est donc accusé d'être impliqué dans un trafic de drogue portant sur 5 kilos de cocaïne et 7,5 kilos de méthamphétamine. Le procureur aurait requis la peine capitale à son encontre, ce qui expliquerait la couleur de son gilet, orange donc, mais aussi le traitement inhumain qui va lui être infligé. Dès les premiers jours, Rémy est pris à partie par les détenus, agonie d'injures racistes, frappé violemment. Malgré la présence de 2 caméras dans la cellule, ces sévices vont se répéter quasi quotidiennement pendant plus de 2 ans, tolérés, voire encouragés par l'administration pénitentiaire. Le français qui pratique la boxe thaï est contraint de se battre pour se défendre, mais les bagarres sont incessantes de jour comme de nuit et il se ligue souvent à plusieurs contre lui. Plus encore que les coups de ses co-détenus, ce sont les sévices imposés par le personnel de la prison, en particulier son directeur, qui l'affaiblissent chaque jour un peu plus. Régulièrement accusé d'être à l'origine des rixes dont il est la première victime, Rémy est attaché environ 15 jours par mois par de lourdes chaînes en fer, les pieds reliés entre eux, accrochés au sol avec un cadenas, les bras fermement sanglés derrière le dos au niveau des biceps et les mains enchaînées. C'est le pire supplice que j'ai vécu, explique-t-il. Ils appelaient ça le baby-ja. Maintenu dans cette position entre 13 et 14 heures par jour, il peut à peine se lever, contraint de rester assis sans bouger sur le béton, de manger comme un chien, en plongeant directement la bouche dans une gamelle posée à même le sol quand elle n'est pas dévorée par les rats. Le prisonnier, qui dépend du bon vouloir des matons et de ses co-détenus, est obligé de hurler pour avoir un verre d'eau ou un récipient dans lequel uriner. En quelques mois, il perd plus de 20 kilos en raison des sévices subis et des semblants de repas servis à l'aide d'une grande pelle, le plus souvent du riz blanc et des boulettes de viande avariée, qui lui valent d'être constipé des semaines entières et provoquent de graves infections parmi les détenus. 5 morts dans sa cellule au cours de son incarcération, dont un Colombien, que les policiers chinois... Pardon. Histoire incroyable. Que les policiers chinois ont transporté à l'hôpital couvert d'un drap, faussement intubé pour faire croire qu'ils étaient éteints à l'extérieur de la prison, et ainsi éviter d'avoir à indemniser sa famille, comme c'est le cas pour certains détenus morts en détention. C'est aussi pour lui que je parle aujourd'hui, dit le Français. C'est dans Libération, Yelnouille. C'est dans Libé, c'est la une de Libé. Alors, qu'est-ce que fait la France pendant ce temps-là ? La première fois que le détenu reçoit une visite du consulat de France à Canton, en septembre 2019, il est détenu depuis 2 mois déjà. La rencontre, qui dure 30 minutes, se déroule de part et d'autre d'une épaisse vitre en plexiglas et étroitement surveillée par un officier de police chinois et un traducteur. Les échanges sont interrompus dès que Rémi tente d'aborder ses conditions de détention ou son dossier judiciaire. « Je n'avais aucune liberté de parole », explique-t-il. Ce jour-là, le représentant du consulat français transmet verbalement le nom de plusieurs avocats, hein, mais Rémi, dont tous les biens ont été confisqués, n'a aucune ressource pour assurer sa défense. Jamais les autorités françaises ne consentiront à débourser un centime. Faute d'honoraires versés, le cabinet finalement désigné par le consulat n'interviendra donc à aucun moment dans son dossier. Au cours des 2 années suivantes, seules 5 autres rencontres de 30 minutes auront lieu avec les autorités diplomatiques françaises. Les notes rédigées à l'issue de ces entrevues que Libération a pu consulter relèvent des problèmes de froid et de nourriture au sein de la prison, tout en soulignant que le détenu apparaît pâle, fatigué et amaigri. Un jour, il se présente avec un bras en écharpe, il explique s'être blessé en tombant dans sa cellule. Il explique que les matons avaient menacé de me priver de nourriture si je disais la vérité. Dans un de ses comptes rendus, le consulat s'étonne qu'en dépit de ses nombreux problèmes de santé, Rémi n'ait pu voir aucun médecin depuis près de 6 mois. Le consulat est un peu au courant quand même. Dans un autre, plus inquiétant encore, le Français fait savoir qu'il ne souhaite pas être incinéré en cas de décès. Pourtant, malgré tous ces signaux alarmants, le consulat ne juge pas utile de lui fournir une quelconque aide matérielle ou juridique. À chaque audience, il est défendu par un nouvel avocat chinois, commis d'office, qui semble découvrir le dossier et avec lequel les échanges sont lapidaires. En Chine, ses proches, puisque dans le chat on me dit « mais il n'a pas de la famille », ses proches le pensent mort en Chine, et en France, où il n'a plus aucune attache familiale ou amicale, personne ne s'inquiète de son sort, et son cas ne suscite ni mobilisation ni médiatisation. Voilà. Son procès se tient finalement en juillet 2020 devant le tribunal populaire de Canton. Encadré par 2 policiers, Rémi comparaît en visioconférence depuis sa prison. À l'issue d'une audience de 4 heures entrecoupée de nombreux problèmes de connexion, le Français est condamné à la perpétuité et à la confiscation de tous ses biens pour trafic international de drogue et entrée illégale sur le territoire. Seule preuve avancée par le tribunal, plusieurs faux témoignages et des traductions erronées de messages trouvés sur son téléphone. Dans la cellule 213, les sévices reprennent de plus belle. Toujours privé de soins, Rémi continue d'être tabassé, enchaîné au sol 15 jours par mois. Le reste du temps, et c'est de là d'où va naître son salut, il s'entraîne à écrire le chinois et commence à rédiger des recours à l'aide d'un co-détenu qu'il recopie inlassablement et envoie tous azimuts aux différentes juridictions d'appel, expédition ses missives jusqu'à la haute cour de Pékin. Un acharnement payant, lors de la visite inespérée d'un officier de police judiciaire chinois accompagné d'un traducteur assermenté, Rémi parvient enfin à démontrer que les preuves retenues contre lui ont été falsifiées grâce aux messages originaux exhumés de son portable. Au bout d'1 an, miracle, la cour d'appel finit par annuler le jugement de première instance et ordonne un nouveau procès. Lors de cette ultime audience, en décembre 2021, les 12,5 kg de drogue qui lui étaient imputés sont mystérieusement ramenés à 1,5 kg de cocaïne. Accusé d'avoir aidé au dédouanement d'un colis suspect à l'aéroport de Canton, Rémy est finalement acquitté, donc il est innocenté par la justice chinoise, pour les faits de trafic de drogue, mais condamné à 6 mois de prison pour entrée illégale sur le territoire. Grief uniquement destiné à justifier ma détention provisoire, la confiscation de mes biens, explique-t-il. Tout était faux, mais le jour du jugement, le consulat m'a dissuadé de faire appel pour ne pas risquer de retourner en prison. Le consulat qui est vraiment au top du top du top du top. Hein. J'espère que vous n'aurez pas à faire appel au consulat de Canton, si je puis me permettre. Français de Canton. Et je vous lis la fin de l'histoire, je réponds à ce message de boulot. Prêt à réagir. Voilà. 3 jours plus tard, le voilà dehors avec pour seul effet personnel un bas de jogging, un débardeur, une paire de claquettes, quelques centaines d'euros. Le jour de son départ, de nombreux documents administratifs relatifs à ses détentions sont déchirés sous ses yeux par un policier menaçant qu'il met en garde, ne t'avise jamais de raconter ce que tu as vécu ici. Sommé de quitter au plus vite le territoire, Rémy a à peine de quoi se payer une nuit d'hôtel, encore moins un billet de retour lors de sa dernière entrevue avec un représentant du consulat. Consulat. Ce dernier s'est contenté de lui offrir un paquet de gâteaux lus en souvenir de la France. Cette phrase, c'est la meilleure de l'article. Je vous la relis. Lors de sa dernière entrevue avec un représentant du consulat, ce dernier s'est contenté de lui offrir un paquet de gâteaux lus en souvenir de la France. C'est pour moi. Non, ça me fait plaisir. Non, 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 vraiment, ça me fait plaisir. C'est des barquettes trois chatons. Non, pardon, c'est des pailles d'or. Ça me fait plaisir. C'est seulement grâce à la générosité d'une de ses connaissances sur place qu'il parvient à se loger dans un hôtel de Canton et rentrer un mois plus tard en France où son dernier séjour remonte à plus de 20 ans. Depuis, l'ancien détenu tente tant bien que mal de se reconstruire malgré de nombreuses séquelles physiques et psychologiques. Après avoir erré d'hébergement d'urgence en logement de fortune, il habite désormais dans une péniche de la région parisienne, vivant grâce à de maigres allocations et au soutien d'une poignée de personnes rencontrées à son retour touchées par sa situation dramatique. Toujours sur le qui-vive, incapable de prendre le métro sans avaler un anxiolytique, Rémy passe le plus clair de son temps cloîtré chez lui dans l'obscurité, préférant sortir la nuit pour éviter de croiser trop de monde quand il n'est pas hanté par les cauchemars récurrents et les souvenirs traumatiques. En arrêt maladie depuis plus de 3 ans, il vient d'être reconnu handicapé sans limite de durée. Dans un des innombrables certificats qui composent son épais dossier médical que Libé a pu consulter, un psychiatre souligne son hypervigilance anxieuse, son repli social excessif et son anorexie mentale. Après avoir déposé une plainte contre l'État chinois pour torture et actes de barbarie, actuellement entre les mains du doyen des juges d'instruction parisien, l'ancien détenu a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui a déclaré sa requête recevable. Ces déclarations sont corroborées par les constats réguliers, bien que succincts, des autorités consulaires, qui offrent donc des biscuits lus, et les blessures établies médicalement après son retour en France. Mais le parquet général français, qui estime au contraire que l'infraction n'est pas caractérisée et qu'aucun lien de causalité directe et certain n'est démontré entre les préjudices subis et les conditions de détention, a fait appel de cette décision. Le ministère, puisqu'en fait, il demande réparation. Et le ministère public français considère que l'indemnisation d'un détenu pour des faits commis à l'étranger constituerait une dérogation au principe de la territorialité de la loi. Voilà. Et risquerait de créer un dangereux précédent. C'est-à-dire que l'État français est à payer pour, finalement, toutes les exactions de pays étrangers sur des ressortissants français. Après avoir refusé de l'aider à financer sa défense lors de sa détention, l'État français refuse donc maintenant de l'indemniser malgré les preuves des sévices subis. Fin de l'article, qui est une masterclass. Pourquoi ce genre d'info ne fait pas plus de bruit ? Bah, ça ne tient qu'à vous. Le truc fait quand même la une de Libé. Hein. Donc, alors c'est peut-être pas sur vos fils info, c'est peut-être pas dans les chaînes info, mais c'est quand même 4 pages dans Libération. Donc, libre aux gens de donner de l'écho à cette histoire. Fin de l'article, mais pour l'avocate de Rémy, qui s'appelle Sarah Stefano, la matérialité des infractions est parfaitement établie et aucune disposition légale ne prévoit que l'indemnisation par la CIVI soit limitée aux infractions commises sur le territoire national. La jurisprudence est constante en la matière, insiste-t-elle, avant de rappeler que donner raison à son client reviendrait surtout à reconnaître que la Chine torture des ressortissants étrangers. Or, cette position semble aujourd'hui intenable pour le ministère public, poursuit l'avocate, moins pour des raisons juridiques que pour des raisons politiques et diplomatiques. Contacter le ministère des Affaires étrangères par Libération a simplement indiqué ne pas commenter les situations individuelles. Donc là, c'est l'histoire d'un Français dans les prisons chinoises. Bon, vous imaginez, il y a un article d'ailleurs dessus dans Libération, ce que vivent aussi les détenus chinois dans les prisons chinoises. J'ai beaucoup lu, je vous lis. Alors d'un coup en France, il a un avocat mais pas en Chine alors qu'il vivait la best life. Alors Larry Benji, qui vient d'arriver sans doute, n'a pas entendu que la première chose qu'a fait l'État chinois quand il a été arrêté, c'est qu'il a confisqué tous les biens de ce monsieur. Donc dans la phrase « L'État chinois a confisqué tous les biens de ce monsieur », quel est le mot que tu ne comprends pas? En vrai, il n'avait pas une thune, quoi. Pas plus une thune. Et d'ailleurs, en Chine, il a eu des avocats, mais des avocats commis d'office qui, manifestement, n'étaient pas accompagnés de traducteurs. Enfin, tu vois, l'enfer, quoi. Merci, Loup. Tu es typiquement à l'image de France Info, ton ancien patron. Aucun mot pour la Palestine. Viens d'écrire Céduro dans le chat. Je vais pas lui répondre, va manquer de temps, mais je vous laisse lui répondre, parce que vous êtes là depuis un petit moment. On lui en veut pas. Internet. Le charme d'Internet. Donc cette histoire est incroyable. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, et notamment lire aussi cet article sur le système carcéral chinois, hein, pas que pour ce Français, mais pour tous les gens qui sont dans les prisons en Chine, c'est-à-dire dans Libération, il y a un gros dossier, et je crois que c'est un très très bon travail journalistique. Et assez dur, non seulement qui ne s'excuse pas, mais qui enchaîne, je vous laisse le lire. C'est du côté de TikTok, le Twitch, je vous l'avais pas. T'inquiète. Et en fait, je vais manquer de temps pour te répondre. Ça va être compliqué. Salut Mathilde. Alors le Népal, on en a parlé, Lilou, il y a quelques jours déjà. Alors, encore un sujet léger. J'espère que dans un quart d'heure, il n'y a pas un gars qui va débarquer dans le chat en disant « Alors, et ça parle pas des pesticides ? Hein ? T'es bien ?» Donc là, on va parler des pesticides. Et j'espère que quand les gars vont popper dans le chat en retard d'un quart d'heure en disant « Putain, et le mec, il parle pas des pesticides. » J'espère, je vais, hein ? C'est vous qui répondrez, parce que ça va fatiguer ici. Donc, c'est la Une de la Croix, il y a plein d'articles ce matin sur le sujet, mais c'est la Une de la Croix qui fait un gros dossier là-dessus. On sait depuis des années qu'il y a un souci autour notamment des vignes. Hein, la viticulture, c'est le secteur de l'agriculture, un des secteurs de l'agriculture française qui utilise le plus de pesticides. Ça pose beaucoup de problèmes. Et là, il y a une étude scientifique qui vient le confirmer. Voilà. C'est la Une de la Croix, gros dossier, viticulture, les riverains surexposés aux pesticides. C'est une étude de l'ANSES et de Santé publique France qui révèle la forte présence de pesticides à proximité des vignes. On le savait déjà. Hein. Mais là, il y a une grosse confirmation avec cette étude scientifique. Donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qu'on appelle l'ANSES, et Santé publique France ont publié lundi, donc c'était hier, un avis attendu sur l'exposition des riverains aux pesticides des vignes. Les riverains, c'est ceux qui habitent autour. Si le risque pour leur santé n'est pas mesuré, donc il y a des inquiétudes, il y a d'énormes doutes, mais là, en fait, cette étude, elle confirme l'exposition aux pesticides, et là, les scientifiques disent maintenant, il faut mesurer le risque pour la santé. Il faut d'autres études. Voilà. L'étude confirme une surexposition très nette, extrapolable à d'autres cultures. On devine, on soupçonne, on suppute d'énormes conséquences pour la santé, hein, notamment de beaucoup de cas de cancer infantile dans des régions concernées. Maintenant, il faut qu'il y ait des démonstrations scientifiques, il faut qu'il y ait cette rigueur scientifique. C'est pas des, je pense, on estime que. Hein. C'est bien la complexité du sujet. À quel point habiter, c'est la question, près d'une vigne? Peut-être que certains dans le chat sont concernés. Est-ce que vous habitez près de vignes? À quel point habiter près d'une vigne vous expose aux pesticides? La question est au cœur d'une étude d'ampleur publiée lundi par Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Conclusion de cette étude baptisée Pestirive, sans appel, écoutez, deux points ouvrez les guillemets, poulpe malade me dit je vis à 200 mètres des vignes, Duduche, Roque Rosard aussi, et Clio, en plein dedans, me dit Rom SAV, 50 mètres des premières vignes, me dit Traoré, j'ai habité durant 3 ans, oui. Ok. Ma grand-mère est décédée d'un Parkinson, me dit Pauline, lien avec les pesticides utilisés autour de chez elle, avéré. Oui, Escolis, on est sur Twitch et TikTok en même temps. Pas beaucoup de vignes à Paris de mon côté. Il y en a de la vigne à Paris, à Montmartre, il y a un peu de vigne. Donc, conclusion de l'étude, les personnes vivant près de vignes sont plus exposées aux produits phytopharmaceutiques que celles vivant loin de toute culture. On s'en doutait, mais là, cette fois, c'est confirmé scientifiquement. Les pesticides sont davantage présents dans le corps et l'environnement des personnes habitant à moins de 500 mètres d'une parcelle viticole que ceux vivant dans les zones non viticoles, à plus de 5 km d'une vigne et 1 km d'une autre culture. L'étude menée environ auprès de 2700 personnes. Toujours important de connaître dans quelles conditions l'étude a été menée. Hein. Conclut également que plus la quantité de produits utilisés est importante, plus l'exposition des riverains est élevée. C'est évident, mais on en a la confirmation scientifique. Et plus les habitations sont proches des vignes, plus on y retrouve des concentrations élevées de pesticides. Chez les riverains de parcelles viticoles, les 12 pesticides recherchés dans les urines des participants ont été retrouvés dans la quasi-totalité des échantillons à des niveaux de concentration de 15 à 45% plus élevé que dans les zones non viticoles en période d'épandage. Les 3-6 ans, les enfants de 3 à 6 ans, sont également plus imprégnés que les enfants plus âgés ou les adultes. L'étude montre aussi l'imprégnation de l'environnement immédiat aux pesticides. Dans l'air ambiant, les niveaux de concentration sont jusqu'à 12 fois plus élevés qu'en zone viticole. Dans les poussières, on retrouve des niveaux jusqu'à 45 fois plus élevés, avec des taux néanmoins variables en fonction des substances actives. Odinox nous dit que ça doit aussi avoir un impact in utero, sûrement. Alors, est-ce qu'il est mesuré scientifiquement aujourd'hui? Je ne sais pas. Si la conclusion ne paraît pas si surprenante, on est bien d'accord, il s'agissait jusqu'à présent d'un angle mort de la recherche, puisque les scientifiques savent de longue date que les travailleurs agricoles, par exemple, sont en première ligne en matière d'exposition à ces pesticides. L'exposition de la population générale est de mieux en mieux documentée, mais celle spécifique des riverains de parcelles agricoles restait méconnue à l'échelle nationale. Donc, on comprend pourquoi il y a eu cette étude. L'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides, on savait. Il y a notre ami Céduro sur la Palestine qui continue. C'est absolument pas ce qu'on fait depuis 5 ans sur la Palestine ici. Ils s'en bat les couilles. Il débarque, c'est les meilleurs, ça. Avec ses certitudes, ses affirmations. Il pense que cette chaîne Twitch est née il y a littéralement à son arrivée, il y a 10 minutes. Et donc, il nous donne des leçons sur la Palestine en ignorant 50 streams sur le sujet. Le fou du bus. Le fou du bus. Et on le tolère. Il n'est pas ban pour l'instant. On le laisse rouler. C'est lui qui a pris le volant. Je sais pas où il va, mais il y va. Je sais pas quoi faire. Il continue. Il a un clavier. Il est incroyable. Je reviens aux pesticides. La régalade. Et donc, les travailleurs agricoles, on savait. La population générale, on savait. Mais bizarrement, en France, il n'y avait pas d'études poussées sur l'exposition des riverains. De quoi expliquer la grande attente qui entourait cette étude à l'origine des alertes qui remontent au temps des années 2010 lorsque, je vous en parlais tout à l'heure, non, il n'est pas ban, parce qu'on a un certain degré de tolérance ici. Voilà. Après, il y a un moment, évidemment, si ça vient trop polluer votre chat, bah, ça dégage, pas pour moi, parce que moi je suis habitué, mais pour vous, parce que c'est épuisant pour vous, quoi. Et donc, j'en parlais, des alertes au début des années 2010, lorsque des associations et habitants s'inquiètent d'un taux élevé de cancer pédiatrique, de cancer chez les enfants, dans le village viticole de Prégnac, en Gironde. Une enquête est menée par l'Institut national de veille sanitaire, mais conclut en 2013 que cet excès de cas reste faible au regard des statistiques et ne demande pas de poursuite des investigations. Un an plus tard, un incident très médiatisé ravive l'inquiétude. 23 écoliers d'un village de Gironde pris simultanément, ensemble, de maux de tête, vertiges, picotement des yeux, irritation de la gorge après l'épandage de pesticides sur des vignes situées à proximité de l'école. Les deux affaires conduisent l'association Alerte des médecins sur les pesticides à saisir la Direction générale de la Santé pour demander une enquête élargie sur l'exposition des riverains bien au-delà de ces cas locaux. Ce sont ces cas locaux, en fait, qui alertent un peu. Parmi les travaux lancés en 2021, figure donc cette étude dont on parle ce matin, conjointe de l'ANSES et de Santé publique France. Celle-ci s'est penchée sur la vigne pour des raisons méthodologiques. Donc ça, je vous les passe, hein, même si c'est très intéressant. Voilà, il y a ce chiffre que je trouve important. Environ 4% de la population française, ça n'est pas rien, vit à moins de 200 mètres d'une vigne. Alors, l'étude, c'est sur l'exposition des riverains aux pesticides. L'étude ne dit pas que c'est mauvais pour la santé, parce que ça, il faut d'autres études. Merci Andy. Les auteurs insistent, sans analyse supplémentaire, les résultats ne permettent pas de conclure quant à l'existence de risques pour la santé des personnes vivant en zone viticole. Là, il faut... C'est mignon, parce qu'il y a Tom qui vient de dire 4%, c'est ridicule. Alors, population française, c'est combien de personnes? C'est juste des matins. Ok, on est 68 millions. Bon, 68-52, mais je t'arrondis en dessous, d'accord? 68. Je ne sais pas. 4. Ok. Donc ça fait combien? 2,7 millions de personnes? Presque 3 millions de personnes qui bouffent du pesticide. C'est un peu quand même. Donc, les auteurs insistent, sans analyse supplémentaire, les résultats ne permettent pas de conclure à l'existence de risques pour la santé des personnes vivant en zone viticole. Parce qu'il faut d'autres études scientifiques. Il s'agit d'une étude d'exposition qui permet de savoir si une population a été exposée. Et non une étude épidémiologique qui cherche à mesurer des liens de causalité entre l'exposition à ces pesticides, qui est maintenant déterminée, et la survenue de certaines maladies, comme notamment, mais pas seulement, les cancers. À ce stade, l'ANSES indique que ces niveaux de contamination et d'imprégnation restent dans les marges de sécurité qui sont prévues par les autorisations de mise sur le marché. Voilà. D'autres travaux sont prévus pour pousser plus loin cette analyse et éventuellement évaluer les risques sanitaires. Le raid du GOAT, Simon Puech vient de nous, Red Simon, voilà, qui est un autre créateur de contenu qui s'intéresse beaucoup à l'actualité, voilà, et que j'ai le plaisir de croiser, notamment dans notre émission qu'on aime bien, MVP. Simon qui est venu dans la première de la saison 2, hein, la semaine dernière, mercredi dernier, malgré le virus, malgré l'atout, voilà, et tu t'es battu comme un beau diable, et j'espère que tu vas mieux. Je suis sûr que oui maintenant. Vous étiez sur quoi ce matin? Parce qu'avec Simon le matin, c'est de l'actu. Simon, vous étiez sur quoi ce matin? La commu de Simon. La toux de l'enfer, mon pauvre. Népal, ouais. Et Kirk. Donc Charlie Kirk et Népal. Excellent. Comment ça, son chat est mort ce matin? Simon, t'as perdu ton chat? En vrai? Kirk Nepal Albany drone. Oui, 20 ans, et il a bien vécu. Le chat de ma maman, qui avait 20 ans, j'ai été lui dire au revoir hier soir, il était trop fatigué. Une pensée pour le chat de ta maman. 20 ans, c'est une belle vie de chat. Merci en tout cas, Simon, pour ton raid. Il y a plein de petits F dans le chat, vous êtes trop mignons. Donc, en conclusion de cette étude, on parle Simon et Amit Simon qui viennent de nous rejoindre. Donc, on a parlé du Proche-Orient ce matin, on a parlé de Gaza avec le témoignage d'un chirurgien français. On a parlé aussi de la une du Parisien sur l'annonce de Le Cornu sur les avantages des anciens premiers ministres rabotés. Je vous fais un petit sommaire rapide. Voici l'article du Parisien sur le témoignage d'un chirurgien français qui raconte son mois à Gaza. On a lu cette étude incroyable dans Libération sur un Français qui a été détenu plus de 2 ans en France, innocenté ensuite. Et qui a subi la torture dans les prisons chinoises alors qu'il a été absolument pas assisté par le consulat en France, un truc scandaleux sur place. Et là on est sur l'exposition des riverains des vignes en France aux produits phytosanitaires. Voilà. Et conclusion de l'étude, les auteurs recommandent de limiter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques au strict nécessaire. En attendant, ils démontrent aussi que certaines pratiques permettent aux riverains de limiter, allez, des petits conseils pour essayer de pas prendre trop cher, de limiter leur exposition en période d'épandage, hein, quand ils sont près des vignes, se déchausser, ne pas emmener les chaussures de l'extérieur vers l'intérieur, nettoyer le sol de son logement une fois par semaine, sécher le linge à l'intérieur. Vous imaginez où on en est ? T'as des scientifiques, les mecs, ils ont fait l'étude, ils sont suffisamment inquiets quand même pour dire aux gens ne séchez pas trop votre linge en extérieur quand même, parce que c'est vraiment de la merde en fait, là, le truc... Ne rentrez pas vos chaussures non plus. Ouais. En amont de la présentation de l'étude, le Comité national des interprofessions du vin a tenu à prendre les devants auprès de la presse, c'est ce qu'on appelle un lobby, faisant valoir les efforts réalisés par le secteur en matière de transition écologique. La filière peut se targuer d'avoir converti 20% de la surface agricole utile en agriculture biologique. De grands progrès ont été faits ces dernières années, on peut aller encore plus loin, disent-ils. Intéressant, hein. Voilà. Bon, ce qui nous manque maintenant, c'est des études scientifiques, mais on les aura sûrement, je l'espère, un jour, sur le lien maintenant entre ces produits et le développement de maladies. Voilà. Cancer, Alzheimer, etc. Du coup, on n'ouvre pas la fenêtre non plus. Bon, non. Pas trop, non. Disent-ils ou disent-ils ? Joli. Disent-ils ou disent-ils ? Joli. Bonjour monsieur, TV5 ne distribue plus votre émission au Québec. Si, TV5 continue à distribuer mon émission au Québec, c'est juste que Question pour un champion a été supprimée en semaine. Et n'existe plus que le week-end. Je n'y peux rien, j'en suis désolé pour le public. Mais voilà, c'est pas la faute de TV5. Je vis à 15 minutes des vignes de Champagne, j'ai un peu bossé dans les vignes, me dit Bouddha aristocrate, je connais un peu les pratiques, c'est effarant. J'étais en stage chez un viticulteur et effectivement, il rentrait le linge avant de traiter, me dit Rosa. Arrêtez de respirer, en fait, dit Fitoun. Le pire, c'est près des golfs, me dit Major Phoenix. Gazon blindé de pesticides. Ouais, excuse-moi, Major Phoenix, j'avais vu ton message tout à l'heure. Est-ce que l'étude est aussi valable pour les agricultures de blé ou de maïs, Samuel, ou est-ce qu'il faut attendre une autre étude ? Alors, d'après ce que je comprends, la viticulture est vraiment la culture en France qui utilise le plus ces produits massivement, quoi. Mon grand-père était œnologue à Chinon, me dit Yanouf, et lui savait déjà tout ça. C'est plus de la viticulture, c'est de la morticulture, me dit Julio. C'est chaud, hein ?
C'est chaud.
Allez, On finit quand même sur quelque chose d'un peu plus léger, puisqu'on a quand même parlé. On s'est pris la tête sur la politique et sur la manière de réduire la dette, et vous avez raison, et du caractère assez symbolique de cette décision de Le Cornu sur la réduction des avantages des anciens premiers ministres. On a parlé du Gaza, qui est un thème passionnel, qui provoque beaucoup de passion, notamment pour ceux qui arrivent après le débat. On a parlé de cette enquête incroyable dans Libération. On a parlé des pesticides dans les vignes. Merci beaucoup, monsieur Dedo. Et merci pour ton message. Et merci encore Simon pour son raid. Et maintenant, eh bien, on va parler de quelque chose un peu plus léger. Je ne pense pas qu'on puisse s'écharper là-dessus. On va voir. Hein. 6m30. Voilà. Galactique, estime l'équipe après ce nouveau record du monde battu par Armand Duplantis. Évidemment, je préchote dans le chat les spécialistes d'actifs qui me disent « Oui, mais Samuel, tu comprends. En fait, il bat le record du monde 1 cm par cm pour les sous. Donc arrête de nous casser les bonbons avec ce record du monde parce qu'en fait, quand même, c'est un calculateur. On nous manipule. On manipule aussi sur l'athlétisme. Hein ? Moi, je ne... C'est quoi déjà la phrase ? Je ne... Les mecs dans la voiture, là, tu sais, quand ils parlent aux policiers, je ne contracte pas. Voilà. Alors évidemment, tout ça, on le sait. Voilà. Mais, sauf que c'est lui qui le fait. Et c'est pas un autre. Voilà. Armand Duplantis a battu hier pour la 14e fois le record du monde et a décroché son 3e titre mondial à la perche. Bon, hey, s'il préfère le faire centimètre par centimètre parce que ça lui rapporte plus de sous, vous savez quoi ? Il a bien raison. Monstro Duplantis, c'est la une de l'équipe. Le Suédois a sorti hier son 3e titre mondial à la perche d'un record du monde à 6m30. Ah oui, il est champion du monde en même temps. Voilà. Il s'annonce maintenant prêt à relever le défi de monter 10 cm plus haut. Désolé, on ne voit pas les commentaires avec le journal blanc derrière. Tu as raison. Il faudrait que, qu'en fait, le chat TikTok sur le fond des articles blancs, que je vous le mette chat un petit peu en fond noir. Où est-ce que je vais vous faire ce réglage ? Ça fait longtemps que je veux faire ce réglage. Attends. Je pense pas que je vais le faire en direct. Il est où le chat ? Je vais essayer de vous régler ça. Je vais bosser là-dessus. Parce que c'est un vrai sujet. Il faut que je me penche là-dessus. Voilà. Armand Duplantis, monstre de la perche. C'est possible, tout est possible, on va se pencher là-dessus. Et le chat est à modérer. Normalement, il y a des modos, mais parfois, ils ont du... La modération sur TikTok marche un peu moins bien. Parfois, les modérateurs qui ont les droits n'ont pas accès. C'est pas au point au point. Hein. L'outil n'est pas aussi bien foutu que sur Twitch, quoi. Armand Duplantis, monstre de la perche, de l'athlétisme et du sport en général, n'était pas revenu dans la capitale japonaise depuis son premier sacre olympique à 21 ans. Incroyable. Il est costaud quand même. Hein. Bon là, ça raconte la compétition, les 6m10, les 6m15, les 6m20. Battre un record du monde dans un championnat au dernier essai, devant un stade acquis à Sako, c'est du vécu puisqu'il l'avait fait aux Jeux de Paris. Il l'avait fait en 2022 aux Mondiaux en salle en plein air. Et là, il l'a fait au Japon. Renaud Lavillenie, notre immense champion, témoin privilégié de ce nouvel exploit, ne voulait pas banaliser jusqu'où ira-t-il. Je n'en sais rien. Savourons, admirons, il est exceptionnel. C'est beau ça. Il a le niveau de performance ultime le jour où il y a plus de pression. Alors 6m30, peut-être n'est-ce pas la dernière limite. Le phénomène qui se plaît à vivre au présent consentait à projeter son règne sur les 10 prochains centimètres. Peut-être que je suis celui qui va vraiment découvrir quelle est la limite au saut à la perche. 6m40, c'est un nouveau défi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un article dans l'équipe pour essayer d'expliquer comment on est passé de 4m02 en 1912 à 6m30 avec Duplantis en 2025. Amélioration du matériel, notamment l'entraînement, tout ça. Voilà. Pas aussi symbolique les 6m30 que les 6m que Boubka, immense champion aussi, avait réussi à passer le 13 juillet 1985. C'était en France, parce que je vois que c'était au stade Jean Bouin. Mais cette marque établie hier aux Mondiaux à Tokyo fera date, résultat d'une longue évolution. Commencé officiellement en 1912 avec les 4m02 de l'américain Mark Wright. Voilà. Mais si on remonte encore dans le passé, on peut trouver un 3m05 aussi d'un britannique John Wheeler en 1866. À cette époque, les athlètes sautaient à l'aide de perches en bois courtes, rigides, qui empêchaient de prendre du levier, hein, et donc de sauter haut. Donc évidemment, le matériel, l'évolution, évidemment. Désolé, on voit pas que les... Il faut que je mette en fond noir, mais je vais vous bosser là-dessus, TikTok, je vous promets. Voilà. La perche en bambou d'abord, donc perche en bois, pas flexible. La perche en bambou apparaît au début du 20e, plus flexible, plus légère, hein, permettant aux athlètes de prendre plus de levier. Voilà. Voilà. Les bons perchistes les faisaient venir du Japon car il fallait les traiter, les entourer parce qu'elles pouvaient s'ouvrir. Voilà. Bambou. Voilà. Donc le bambou qui devient d'un usage courant et qui fait progresser la discipline. Et on monte, hein, 4m60, 4m79, 4m77. À la fin des années 40, les perches en métal. Comment ça, perche en bambou, titre? Je sais pas. Les perches en métal prennent petit à petit la place du bambou, plus cher et moins fiable. Cela permet de démocratiser la perche et ça fait croître le nombre de perchistes. Mais ces perches en métal étaient extrêmement rigides et il y avait de la difficulté dans ce saut. Voilà. Ensuite, années 60, apparaissent les perches en fibre de verre, hein, plus légères, très souples, qui permettent de prendre plus de levier. Avec le métallique, les athlètes ne prenaient pas plus de 4m20. Voilà. Et après, on s'envole. Les progrès dus à la fibre de verre sont immédiats et éclatants sous l'effet catapulte. Son effet catapulte modifie les sensations du perchiste. Quand la perche se détend, elle donne au corps une véritable vitesse ascensionnelle. Le corps s'élevant à la verticale avant de franchir la barre. Il faut moins de 2 ans pour que de 4m83 en 61, le record soit porté à 5 mètres. Les recordmen du monde se succèdent ensuite avec une grande variété, hein, jusqu'à l'arrivée de Boubka. 35 records du monde, Boubka. 35 records du monde. Waouh. Jusqu'à ces 6m15. C'est énorme. En 93. Domination sans partage. Sergueï Boubka, hein, avait une puissance physique extraordinaire. Rapide. Il devait valoir 10-35 au 100 mètres. Il faisait 8 mètres en longueur. Il avait fait de la gymnastique. Il était bien plus monstrueux que Mondo. Depuis 5 ans maintenant, le monde assiste désormais émerveillé et impuissant au règne d'Armand Duplantis, suédois d'origine américaine. Vous saviez ça? D'origine américaine. Bien parti pour faire progresser la perche encore plus que Boubka. Entraîné par ses parents, son père, Greg, avait sauté à 5m80. Ok, d'accord. C'est une histoire de famille. Voilà. Il saute depuis son plus jeune âge. Il saute depuis ses 4 ans. Duplantis, il saute depuis ses 4 ans. Le secret de sa domination. Les performances sont influencées par la vitesse de la course. Il a couru le 100 mètres en 10m37. Je suis certain qu'il pourrait réaliser 10 secondes 37. Je suis certain qu'il pourrait réaliser 10 secondes 20. C'est la raison pour laquelle il est si fort. Famille de sauteurs, exactement mix. Je vois pas ce qui te fait rire. Oui, c'est une famille de sauteurs. Et alors? Qu'est-ce qui est drôle? C'est une famille de sauteurs. Eh ben, il en faut. Et puis par rapport aux autres, il a 5 à 10 fois plus de sauts dans sa besace vu l'âge auquel il a commencé. Donc il court très vite et il a commencé très tôt. Si les blessures ne viennent pas le freiner, il n'y a pas de raison pour qu'il ne domine pas la perche pour au moins les 5 prochaines saisons. C'est beau, non? C'est beau. Vous aussi, vous sautez ou pas? Ça saute un peu? Là. Est-ce qu'un sauteur sachant sauter sans... Merde. Est-ce qu'un sauteur sachant sauter sans sa perche est un beau sauteur? Ça saute pas mal? Ça saute pas mal? Ça saute? Poulet sauter? Je ne fais que ça? Voilà. C'est beau. C'est très très beau. Très très beau. Amis de TikTok, je vous promets d'aller voir comment je peux modifier votre chat pour que sur les articles fond blanc, vous puissiez vous lire. Je vais aller faire ça après. Attends, j'ai paramètres là. Ah, pas, on peut pas changer. Si, on peut toucher en live. Résolution, je pense pas que je puisse le faire. Qualité du live, excellente. Transition de scène, ça m'intéresse pas. Enregistrer, touche de raccourci, paramètres audio, système. Y a pas grand chose en vrai. Hein. Ouais, c'est pas là. Je vais bosser là-dessus. Le sondage, fais voir le sondage. Est-ce que ça saute? Il y a un sondage sur Twitch, ça saute. Oui, ça va, 16%. Peut mieux faire, 27%. Je recherche des sauteurs, 54%. Ok. Pas sûr que tu puisses changer. Ah, dommage. Alors, vous êtes 55% à chercher des sauteurs. Ok, bon. Bon. Manifestement, il y a des gens qui veulent se mettre au sport, et ça, c'est très bien. Et là, on voit, c'est très bien. Je valide la blague de Kix. Bonjour monsieur Etienne, vous ne parlez pas des effets des pesticides sur les gens? Vous êtes bien comme tous, hein, dopés par les lobbies phytosanitaires. On valide. On valide fort même. Salut, c'est Lenangui. J'espère que je prononce bien, merci pour ton message. Les amis, je vous laisse parce que dans trois quarts d'heure, j'ai un Teams pour préparer un stream de jeux vidéo de demain soir. Et j'ai rien foutu, il faut que je télécharge le jeu, etc. Ensuite, à 14h30, j'ai un rendez-vous pour vous préparer l'arrivée de la revue de presse, la matinée Étienne, en podcast. Après, à 16h, je participe à une conférence sur Twitch. C'est où, ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et si j'arrive à tenir debout encore, je vous rejoins ce soir pour du gaming, mais que sur Twitch. Voilà. Amis TikTok, merci. Prenez soin de vous. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre les commentaires un petit peu sur fond noir. Hein, pour que vous puissiez lire les commentaires également quand on lit des articles qui, par définition, sont souvent sur des pages blanches. Je vais voir ce que je peux faire là-dessus. Merci en tout cas de m'avoir accompagné ce matin, d'avoir été si nombreux. Passez une belle journée. Et de la rue de presse revient demain matin. On est là tous les matins. Voilà. Bientôt, on sera multipass. On sera Twitch, TikTok, podcast. Merci encore. Je vous abandonne maintenant parce qu'on va faire un raid sur Twitch. Merci encore, je vous dis à très vite. À demain même. Et puis ce soir sur Twitch, si vous le souhaitez, pour du gaming. Tivalo ce soir. Ou alors on lancerait le jeu que j'ai découvert dimanche, là. On va voir. Avec Shoah1, un petit Warzone, on va voir. En même temps, il y a le Silver qui nous tend les bras, donc... Merci en tout cas, amis de TikTok. Alors, amis de Twitch, qui ont raid? On a eu des beaux raids, on a eu notamment le raid de Simon tout à l'heure. Qui ont raid? Qui est en live? Alors. Ouais. Excusez-moi. J'aime bien lui. Truc de bouffe là, il est gentil lui. Non, on l'a déjà. Ça faisait longtemps. C'est une streameuse que j'adore. Merci Neov pour le soutien. Une streameuse que j'adore. Une streameuse que je voyais souvent streamer le soir. C'est comme ça que je l'ai découverte. Sur Valo. Et qui est tellement sympa. Voilà. Et que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui est pas sur Valo là, qui est sur Minecraft actuellement. Vous la connaissez, c'est Midori. Voilà. Elle est en subathon jour 4. Subathon, ça veut dire qu'il faut lui envoyer de la force. Je ne vois que 15 viewers sur la chaîne de Midori, alors que cette chaîne devrait être suivie au quotidien par des milliers de personnes. Allons voir notre amie Midori. Vous allez voir, elle est vraiment formidable. Voilà. Midori. Ok. Allez me follow cette chaîne. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu en live. Donnez-lui de la force. C'est pas facile, hein. Quand tu commences le stream, hein, de créer ton petit écosystème et tout. Donc allez donner de la force aux streamers, aux streameuses qui sont dans cette aventure et qui sont en train de constituer leur public, leur écosystème, leur commu. Voilà. Et elle mérite. Midori, c'est quelqu'un de formidable. Allez, je charge le raid et je vous retrouve après toutes mes réunions et mes petites confs, peut-être ce soir pour du gaming. En tout cas, au plus tard demain matin pour la revue de presse. J'essaie d'être là tous les jours, vous l'avez vu pour l'actu. Je tiens cette promesse. Merci. Merci de la force que vous donnez aux streamers et aux streameuses, comme là maintenant tout de suite, à l'ami Midori, à ce soir ou à demain. Merci encore.
Comment ça marche le carry-on là du coup, parce que... Je m'y attendais tellement pas à celle-là. Hein. Comment vous... Oh là là. Comment vous allez, le chat? Ça va bien?